je démarchais pour ce qu'on avait fait, Daniel et moi. Et je dis, Daniel, il faisait partie de Taxi Girl. Il y a Mirves, il vient de faire Madonna, 14 millions d'albums. C'est à vous de voir si vous voulez rater un truc ou pas.
Daz, c'est dans le tempo, le podcast des passionnés de musique.
Oh là là, déjà la 93.
Ouais, 93e épisode, effectivement. Bienvenue à tous, on est Daz avec Frédéric Lowe. Ça va Frédéric?
Bienvenue.
Très bien.
On est content de te recevoir, bah, c'est un plaisir. Tu es compositeur, parolier, réalisateur, arrangeur, instrumentiste. J'ai même vu mélodiste, c'est un terme que t'aimes bien, les mélodies ouais, t'es attaché à ça.
Peut-être.
Top liner, on dirait.
Top liner, peut-être on va dire comme ça. Oui, d'ailleurs,
je fais du son, quoi.
Ouais. Ça, je pense qu'on peut le dire. Parce que ça fait, t'as une sacrée expérience. Ça fait plusieurs décennies que tu fais du son, justement. Mm-hmm. Que ce soit en solo ou pour accompagner d'autres personnes. Mm-hmm. Parfois, tu restes vraiment dans l'ombre, comme c'est le cas quand tu travailles avec Stéphane Echer, par exemple, ou Alex Baupin. Parfois, tu es un peu plus mis en avant. Tu formes quasiment un duo dans des collaborations. Ça a été le cas avec Pete Doherty, par exemple. Vous avez fait un album ensemble tous les deux. Ta collaboration aussi, qui était quasi un duo avec Daniel Darc aussi.
Bien sûr, ça. À l'époque, Daniel voulait que ce soit nos deux noms.
Ouais.
Et en fait, j'étais producteur de l'album. Je le réalisais, mais j'étais aussi ce qu'on appelle owner of the tracks.
C'est-à-dire que les
masters m'appartenaient. Et à la différence de Peter, qui était une star mondiale reconnue, quand j'ai travaillé avec Daniel, il était connu de l'underground, mais pas du grand public. Et je pensais que c'était beaucoup plus fort de le mettre seul en avant. Mmh. Et voilà, mais c'était vraiment un travail en duo, effectivement.
On y reviendra parce que tu parles d'underground. En fait, Daniel Darc, pour ceux qui le connaîtraient pas, il faisait partie d'un groupe qui a marqué quelque chose, qui est devenu culte avec le temps, qui s'appelait Taxi Girl et qui notamment a utilisé une esthétique new wave et rock britannique qui était pas hyper courante en France et dont ils ont été vachement inspirés, qui a inspiré je pense toute une génération. Et je dis ça, c'est pas un hasard parce que toi-même en fait, tu as été marqué par le rock, la pop britannique, ça fait vraiment partie de ta culture. On le retrouve évidemment dans tes différentes collaborations. En tout cas, on va parler un peu de tout ça, de ton amour de la musique, évidemment, du rock, de la pop britannique, de tes 3-4 albums solo, et surtout, parce que c'est, tu sais, dans cette émission, on aime bien parler aussi du fait que, la musique, c'est un métier. C'est-à-dire qu'il y a l'œuvre en elle-même, bien sûr, mais il y a aussi, toutes des coulisses, entre guillemets, qui font que c'est un métier. Et les collaborations, j'imagine qu'elles sont pas faites toutes seules. Ça a dû être une construction avec le temps, des opportunités, des rencontres, ce genre de choses. Et je pense que c'est toujours intéressant de parler de ces histoires parce qu'elles
disent. Des compromis?
Ouais, des compromis peut-être. Comment on met un peu de soi en collaborant avec les autres? Comment on s'efface aussi parfois? Enfin, j'imagine que c'est une vraie science, un vrai travail, quoi. Donc on va discuter de tout ça. Mm-hmm. Et ce que je vous propose, c'est qu'on commence avec les débuts, dans le sens où il faut qu'on parle un peu de cette musique britannique. Cette musique d'Angleterre, parce que je pense qu'on n'a pas tous conscience de ce qu'elle représente. Tu te rappelles, toi, un peu, comment tu te prends, quel âge t'as, et comment tu te prends cette musique, et le choc, j'imagine, que ça a dû être à l'époque?
Enfant, mon premier choc, c'était la musique classique.
Ah ouais.
Mes parents n'étaient pas mélomanes, n'avaient pas fait d'études. Ils avaient travaillé à 13 ans, et en même temps, c'était les 30 Glorieuses. Ma mère était couturière. Et mon père était issu d'une famille de compagnons de charpentiers.
Milieu plutôt modeste.
Oui, un milieu plutôt modeste. Mon grand-père maternel était mineur dans le Nord. Donc moi, à l'école, d'un coup, le premier choc, c'est de entendre. Michel Legrand chantait le Dauphin à la télé. C'est c'est l'orchestre qui vient à l'école jouer Pierre et le Loup et Pierre et le Loup. Je l'avais en disque avec récité par Gérard Philippe. Il y avait aussi tout le côté. Je me souviens le dimanche matin tous les films muets. Et j'adorais la musique qui passait derrière. Et la musique qui passait derrière, à chaque fois, c'était en fait les Français. C'était Satie, c'était Fauré, c'était Ravel. Et donc, en fait, ça, sans le savoir, ça me touchait vraiment. Mais sans vraiment même l'identifier. Et je rejette tout quand d'un coup, je me mets à découvrir le rock'n'roll. C'était une musique du siècle dernier.
je visualise.
Et là, voilà, d'un coup les Beatles, d'un coup j'apprends l'harmonie sur les Beatles, j'apprends l'anglais sur la musique anglo-saxonne. Mmh. Et là, j'ai 12 ans, 13 ans, et j'ai une sœur, donc Brigitte, qui est décédée en 2023.
Il y a un morceau qui parle d'elle.
Voilà, un de ses premiers grands amours et qui est dans la bande de farfelus comme ça et journaliste dans un journal qui était important à l'époque qui s'appelait Best parce qu'à l'époque il y avait très peu de médias sur la musique en fait. Il y avait Best et Rock et Folk. Mmh. Après t'avais un peu dans Libération et un peu dans Le Monde et après il devient journaliste rock dans Le Monde. Mmh. Et donc d'un coup je vais voir des concerts avec eux et donc tous leurs amis, dans leurs amis il y a Philippe Constantin qui va fonder Barclay et les éditions Clouseau, qui va signer Lerita Mitsuko, qui va signer Téléphone, qui va signer Stéphane Escher et énormément de
ouais,
gens
quand même c'est... Ouais.
Il y a Alain Pacadis qui va faire qui fait des chroniques nightclubbing dans Libération, qui était un dandy, qui était un peu genre Oscar Wilde du rock, qui a écrit un bouquin sur une année. Il y avait Eudeline, il y avait un garçon qui s'appelait Jackie, qui est ensuite devenu très connu.
Jackie, quoi.
Voilà. Et lui, c'est dingue.
Club Dorothée et compagnie, de,
voilà.
De production.
Et lui, ce qui est dingue, c'est que lui était attaché de presse chez Phonogramme, qui était Philips Phonogramme. Il s'occupait d'un groupe qui s'appelait Bijoux. Et comme moi, j'avais 12-13 ans, il voulait sans arrêt mon avis. Alors, j'étais entouré de... Et là, ce groupe Bijoux, à un moment donné, se met à parler sans arrêt d'un de leurs héros, l'invite sur scène, et là, après, Jackie me le présente parce qu'il s'occupait aussi de cet artiste qui vendait absolument aucun disque, qui venait de faire un album, qui était un bide énorme, qui était un peu, quand on parlait de provocation tout à l'heure, un peu provocateur, qui s'appelait Rocker and the Bunker, et cet artiste, c'est Serge Gainsbourg. Et donc, d'un coup, je vois l'arrivée de Serge Gainsbourg en 1978 au Palais des Sports avec Birjou, et puis d'un coup, il me le présente. Et donc, il y avait d'autres gens, il y avait aussi, De Cône, qui faisait aussi Chorus, et donc, il y avait là tous les groupes du moment. Alors peut-être que quand on est jeune, il y a toujours une période où on pense que c'est l'âge d'or, parce qu'on se prend tout dans la gueule. Mais bon, dans ces groupes, il y avait Police, il y avait les Pretenders, il y avait les Cure, enfin voilà, il y avait...
Si on devait, un morceau de cette époque qui te reste encore aujourd'hui, tu te dis, là on avait atteint un truc, et encore aujourd'hui tu te dis, oh, c'est tellement bien. Si on devait s'écouter juste.
Il y en a tellement.
J'imagine.
Il y en a tellement.
Il y en a pas un qui te reste un peu vraiment, auquel t'es attaché personnellement.
Un seul, j'ai toujours du mal.
Ouais. Un groupe, alors, si tu devais.
C'est marrant, par exemple, ça m'a plu, ça. Alors, je pense à ça, parce que là, on est aujourd'hui, en 2025. J'ai des enfants. D'un coup, on est ensemble, on regarde L'Amour Ouf, et d'un coup, j'entends Euphorès de Cure. À l'époque, ça me semblait tellement dingue. Tu vois, Robert Smith, quand il commence à faire les Cure, il a 16 ans. Quand il fait Forest, il a 18, 19 ans. À la fois, c'est tellement, à la fois, ce que j'adore chez lui, c'est que c'est à la fois énigmatique, à la fois quand même très catchy, mais en même temps très produit. En même temps, c'est pas du tout
un tube.
C'est pas vraiment un performer, mais en même temps, harmoniquement, c'est très étrange.
Tu veux qu'on s'écoute un extrait, rapido?
Avec plaisir.
Allez, on s'écoute ça. C'est vrai qu'il apparaît dans le film, je sais pas si t'as vu L'Amour Ouf.
Non, je l'ai pas vu.
Bon, c'est peut-être que le morceau. Tu perds pas non plus un truc énorme.
J'ai prévu de le regarder, mais
c'est pas,
que...
c'est pas le parrain, hein.
Ah, oui, non. Ouais, après, non, le film est pas inintéressant. On a déjà parlé dans cette émission, je crois. Il y a des tentatives, sincères et pas toujours réussies, mais il essaye de faire des trucs, mais c'est pas abouti.
Il y a des tentatives.
Il y a des tentatives. Bon, A Forest Cure. C'est vrai que l'intro est un peu longue, mais elle est hyper bien aussi. Je vais peut-être avancer un moment.
Années-là qui, là, à ce moment-là, tu sais ce que tu veux faire plus tard ou t'essaies quand même encore de rester dans le cadre qu'on t'a donné, en fait, de fait?
En fait, c'est bizarre parce que souvent, je parle de schizophrénie, c'est vrai. Comme mes parents n'avaient pas fait d'études et que j'étais plutôt bon à l'école, je sentais que c'était une chance qu'on me donnait et j'avais pas envie non plus de décevoir mes parents. Et puis en même temps, la musique en France et même le côté show off d'être chanteur. Et puis j'étais pas un bon instrumentiste.
Enfin, j'avais... ça, c'est pas trop grave, dans l'absolu.
Non, mais tout ça, mis à bout, je voyais pas très bien, comment faire.
Quelle carrière tu pouvais.
Ouais.
Comment et donc, ça arrive, en fait. Alors, parce que dans les années 90, tu vas avoir un groupe, Eleonora.
Ouais.
Tu vas signer avec une maison de disques, brièvement. Comment tu passes de ce moment où tu te dis, bon, je suis pas forcément fait pour ça, entre guillemets, à en faire un métier?
En fait, quand j'ai 12-13 ans, je commence par faire un premier groupe, ensuite un deuxième groupe, ensuite un troisième groupe, ensuite un cinquième groupe qui va durer 10 ans, Eleonora. Dans ce groupe, on va avoir le clavier de Taxi Girl, on va avoir un guitariste, par exemple, que je trouve talentueux, qui a 12-13 ans, 13 ans peut-être. Il fait des solos de guitare pendant que je chante. Alors je lui dis, écoute...
Attends un peu.
C'est pas possible. Il y a un moment où tu peux le faire, mais ok, d'accord. Il m'a rien fait. Ok. On refait la chanson et puis il refait la même chose. Je dis, écoute, t'es très sympa, mais t'es viré.
Et je vais prendre la guitare.
Ok, d'accord. Et des années après, au Francofolie de La Rochelle, je le vois, il joue avec Vanessa Paradis. Il fait exactement la même chose. Je t'embrasse, Mathieu Chedid. Mathieu Chedid de M.
Ah oui, c'était ça, c'était Mathieu.
Voilà, donc, en fait, on était... À des moments donnés, on m'a dit, mais tu connais tout le monde. C'est pas que je connaissais tout le monde, c'est que si tu joues aux mêmes endroits, à un moment donné, tu rencontres les gens qui te semblent intéressants. Et puis tous les gens que je trouvais intéressants, ils ont fait des choses.
Donc t'as viré
M de ton groupe, c'est ce que tu m'as dit. Je sais pas si c'était la meilleure stratégie, pour être honnête, Frédéric. Mais pourquoi pas.
Écoute, c'était ce que... il n'y avait pas de...
Et alors, dans les années 90... En fait, c'est ce que je veux qu'on arrive tranquillement à cette deuxième partie, à cette... pas cette deuxième vie, mais à un moment, il y a eu un changement pour toi, notamment à travers la collaboration avec Daniel Darc dans les années 2000 et la sortie d'un album qui s'appelle Crève-Cœur. Avant qu'on en arrive là, qu'on comprenne où tu étais juste avant cet album, signé donc sur un label. C'était sur quel label que tu étais signé?
C'était chez Mercury, oui.
Ok. Tu sors un album avec le label?
Deux.
Deux albums. Mm-hmm. Ça se passe bien, c'est... Parce que c'est pas un groupe qui va... Enfin, ça va pas tout de suite persister, c'est pas ce qui va te permettre tout de suite d'obtenir de la lumière.
Ah non, pas du tout. Alors, je peux t'expliquer simplement. En fait, mon groupe Eleonora, donc on tourne dans plein d'endroits, on fait plein de choses, tout ça. On enregistre deux albums qui ne sortent jamais.
Okay.
J'avais le côté un peu de... Oui, de la working class, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait que je gagne quand même ma vie pour voilà, pour faire de la musique. Et donc j'ai un job alimentaire et d'un coup je revois mon ami Marc-Antoine qui me dit mais tu as fait des chansons. Et puis effectivement quand je travaillais, bah j'avais le dimanche ou le soir, je faisais de la musique et donc j'avais composé comme ça après mon groupe une dizaine de chansons et c'est comme ça que j'ai signé chez Mercury. Le premier album, j'ai un accueil presse qui est pas mal, mais en même temps, je suis dans une boîte où il y a Johnny Hallyday, Zazie, Florent Pagny.
Ouais.
Donc, je suis vraiment, je suis pas à l'endroit qui serait mon endroit, mais c'est comme ça.
Là, on est à quelle année à peu près?
Là, c'est en 95, j'ai une trentaine d'années. Cet album, je le produis moi-même, mais je vois bien que, soniquement parlant, c'est pas comme j'aimerais que ce soit. Donc je veux travailler avec un quelqu'un de plus aguerri. Mmh. Et là, je propose un nom et le boss du label à l'époque me dit tu veux bosser avec ce loser, mais pourquoi? Et c'était Dominique Blanc-Francard.
Oh.
Et Dominique, qui
grand
était
ingénieur du son,
qui était à ce moment-là dans une phase. Il y a toujours des phases et c'était il avait moins la main, mais avant il avait bossé au Château d'Hérouville avec Pink Floyd, il avait fait énormément de choses, il avait ensuite mixé énormément de tubes dans les années 80. Dans les années 90, il avait fait des trucs qui en France, dans ce que j'aimais, étaient pas mal. C'était Les Innocents, Stéphane Escher, et comme ça en fait on travaille ensemble pendant 4 mois avec Dominique. Et ça a été un peu mon maître Yoda, quoi. Je l'appelais d'ailleurs comme ça. Et c'est à ce moment-là que je fais un tube pour Faudel.
C'est incroyable, quand même.
Et là.
Mais c'est des connexions, justement, parce que Dominique bossait avec lui.
Non, c'était chez Mercury, ça. Ah. Il était chez Mercury. Et là, Dominique, comme moi, j'avais fait des études d'informatique scientifique, mais en même temps, j'avais un prof qui était à l'IRCAM, par exemple, parce que,
qui est une institution parisienne de recherche autour de l'acoustique et de la musique.
Voilà, fuir le naturel et il revient au galop. Quand je faisais des études scientifiques, mais en même temps, je les avais orientées signal, échantillonnage. Le théorème de Fourier, c'est l'échantillonnage. Et les ondes, etc. D'où l'IRCAM. À chaque fois que Dominique... Parce qu'avant, en groupe, j'avais pas du tout voulu m'occuper de la technique et de l'enregistrement. Je voulais vraiment, j'avais un magnétocassette et je voulais composer des chansons et que ça tienne comme ça. Et si ça tenait comme ça, pour moi, c'était ça la base du songwriting.
Ouais.
À ce moment-là, Dominique, à chaque fois qu'il appuyait sur un bouton, je lui demandais ce qu'il faisait. Et comme lui, il était vraiment hyper pédagogue, hyper gentil et qu'on s'entendait vraiment bien. À chaque fois qu'il appuie sur un bouton et qu'il me dit, bah là, c'est un compresseur, il y a un seuil, ça réduit de temps de dB, machin truc, tout ça. Tout ça, techniquement, je connaissais.
Ouais.
Parce que j'avais fait, par exemple, un stage à EDF, au centre de recherche d'acoustique. Tout le côté technique. Tout le côté lire.
Artistique, en fait, que...
Je ne l'avais jamais fait sur la musique.
Ouais.
Mais je l'avais fait sur la physique, en fait.
Mmh. C'est ce que tu fais pour Faudel? Parce que tu dis que t'as bossé avec lui un moment.
J'avais écrit un texte.
Ah, c'était pour le texte.
Ouais, ouais, okay. Tout à fait.
Parce que tu disais, on t'avait proposé de bosser d'abord sur un morceau qui est devenu un tube absolument énorme.
Ouais, Tell Mandrake,
ouais. Ouais. Et finalement,
je trouvais que c'était bien comme ça, donc j'aurais dit,
il
y a rien à faire. Mais j'ai eu raison.
Ouais, c'est vrai.
Oui, t'aurais juste pu avoir des sous, quoi.
Voilà, mais j'ai pas pris le plus court chemin pour l'argent parce que je faisais pas de la musique pour l'argent. C'est ça peut-être qui est, C'était une erreur sûrement à court terme, mais c'était un avantage sur le long terme.
Mais par contre, tu as écrit pour un autre morceau, alors qu'il a moins marché que Telman Brick, mais quand même, ouais,
mais un million d'albums, 400 000 singles, c'était énorme. Et donc, quand Dominique me voit comme ça, il me dit, mais en fait, comment t'es, tu devrais, et il me fait une liste, et c'est vraiment le début du home studio à ce moment-là. C'est le début de, du fait qu'on puisse acheter un Mac et s'enregistrer à la maison. Donc il me dit achète ça, il me fait une liste et j'achète ce qu'il me dit. Et donc j'ai je sais pas 5-10 cartons dans le salon. Après lire les docs en anglais à l'époque, tout était plus compliqué quand même pour que ça marche, mais lire les docs, je savais le faire. J'avais pas peur d'un ordinateur d'un coup, et comme ça je travaille peut-être un an chez moi. Et comme ça, je rencontre Dark, que je lui demande qu'on écrive ensemble une chanson pour Dani, qui est à la suite de Comme un boomerang, le duo qu'elle avait fait, écrit par Serge Gainsbourg pour l'Eurovision, qui est sorti 15 ou 20 ans après. Et en fait, c'est comme ça que d'un coup, je réalise qu'en fait, je peux tout ce que j'avais fait avant en groupe ou même à aider des amis à faire des démos dans un studio, tout ça, c'était un job, c'était réalisateur et arrangeur, et qu'en fait je pouvais très bien enregistrer dans mon salon. Et en fait c'est comme ça que j'ai fait Crève-Cœur. Et à la fois, ce qui est intéressant dans ce parcours, c'est que à ce moment-là, je n'étais plus artiste chez Universal, mais j'avais compris en fait ce que voulait dire faire un contrat d'artiste, que voulait dire une licence, que voulait dire un contrat de distribution, qu'est-ce qui pouvait manquer à un artiste, parce que quand j'étais chez Universal, je voyais bien tout ce qui m'avait manqué, je voyais bien que, et en fait, c'est à ce moment-là qu'on a fait Crève-Cœur. Mais quand on fait Crève-Cœur, Daniel, c'est presque un clochard. Ça fait 10-15 ans qu'il a pas fait d'album.
Parce que il vient par, excuse-moi, juste pour ceux qui connaissent moins, donc il vient de ce groupe culte Taxi Girl, mais qui a connu des affres terribles, des décès au sein du groupe, etc. Ouais. Une histoire compliquée, même si elle a marqué. Ouais. Et lui, tu dis, artistiquement, c'est compliqué à ce moment-là qu'on vous rencontre.
Eh ben, ça fait 15 ans qu'il a pas sorti d'album, 14. Il y a malgré tout un truc qui change la donne aussi, c'est que son alter ego dans Taxi Girl, c'est Mirwes, qui venait juste produire Music de Madonna, 14 millions d'albums vendus.
Ouais, et
quand je démarchais, là, j'ai allé un peu au flanc, un peu comme là, d'un coup, c'était pas moi. Je faisais comme faisait mon ami Marc-Antoine avec moi. C'est-à-dire que je démarchais pour ce qu'on avait fait, Daniel et moi. Et je dis, Daniel, il faisait partie de Taxi Girl. Il y a Mirwes, il vient de faire Madonna, 14 millions d'albums. C'est à vous de voir si vous voulez rater un truc ou pas.
Bah, tu sais quoi, on va s'écouter et après on écoutera un extrait de Crève-Cœur. Mais Taxi Girl, Cherchez le garçon qui est leur gros tube. Je suis sûr que ça parlera à plein de gens. Qui est leur grand classique. Hein.
Donc c'est 80, ouais. Ça. Hein.
Ouais, c'est ça, on est en 80. Ouais. J'imagine, pour la France, c'est d'une modernité incroyable à ce moment-là.
Ouais.
Bon, vous vous retrouvez musicalement, forcément, avec Daniel. J'imagine, quand on écoute ce morceau, toi, tes références britanniques, il y a un truc qui colle assez facilement.
Ouais, aussi, la littérature aussi. Ouais. On a vraiment une culture commune. On a lu les mêmes trucs. Après aussi, comme j'ai fait beaucoup de groupes post-punk dans les débuts 80, et puis j'ai toujours connu des freaks, quoi. Donc j'ai pas du tout peur de...
Des numéros de tout, un peu comme show. Daniel Dark l'était.
Ouais, ouais.
Personnage compliqué?
Ah oui, oui. Oui, ça, c'est pas un mythe. Hein. Non, mais une enfance un peu brisée aussi. Il a eu une enfance très douloureuse. Sa mère à la Libération a été emprisonnée parce qu'elle a été avec un médecin allemand. Et le père de Daniel, lui, toute sa famille a été décimé à Auschwitz. Donc en fait, il y a vraiment le père alcoolique. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est aussi un gamin un peu brisé, qui hyper timide, qui d'un coup devient extraverti grâce à la cam et puis le rock'n'roll. Donc il y a aussi un truc comme ça d'assez assez fort et assez aussi très 80 aussi dans le un peu nihiliste.
Ouais, mon futur de toute façon.
Ouais, c'est ça.
Mais du coup, donc lui gros hit dans les années 80, ensuite tu disais il était quasiment en voie de clochardisation,
il a
complètement vrillé. Et toi tu reconnectes avec lui du coup à la fin des années 90.
Non, début 2000.
Ah oui, ouais, d'accord, ok.
Ah oui, oui. Il a fait quelques albums solo cultes qui sont très beaux, mais qui n'ont pas eu de succès parce qu'en même temps il était mal. Et quelque part notre association, j'arrive à le canaliser, à faire quelque chose de plus peut-être plus mélodieux. Et en même temps de, c'est pas très beau ce mot-là, mais de capitaliser sur son côté quand même sulfureux, underground.
Parce que concrètement, c'est que tu arranges, tu réalises, t'écris aussi parfois un peu avec lui. Comment ça se passe exactement? Qu'est-ce que vous faites ensemble?
Ah bah c'est très simple, c'est ma musique, c'est moi qui joue tout, et lui écrit des textes chez moi. Donc en fait, on fait des séances de travail de 9h à 20h, 5 jours par semaine pendant un an et demi. Et quand je pense que ce qu'il écrit est pas assez bien, je lui dis de reprendre comme un éditeur. Et parfois, même quelques phrases, je lui soumets. Donc oui, c'est vraiment un travail de... Ensuite de ça, donc je vais chercher le deal, je trouve un deal chez Universal, je suis là à chaque promo, je fais un travail de producteur, quoi.
Ouais, t'es son DA en fait un peu.
Cet album Crève-Cœur, donc il sort en 2004.
Oui.
Il est hyper bien l'album, on te l'a dit de nombreuses fois. Sa sortie a marqué quelque chose vraiment.
Ah mais ça a été énorme pour nous, parce qu'en fait quand tu fais un disque qui te plaît, tu le fais pour toi, tu peux pas savoir si tu sais que ça te plaît à toi, et on était deux, tu peux pas savoir si ça va plaire à 20 personnes ou à 20 000 ou à 200 000. Et c'était assez fort.
Moi j'ai mis plein de morceaux de côté pour qu'on s'écoute à quoi ça ressemble. Je sais pas toi lesquels tu aimes beaucoup. Alors il y en a des un peu différents. Moi j'ai mis de côté par exemple Élégie, Inutile et hors d'usage. Alors je me rappelle qu'il y a un peu un des tubes, peut-être que d'ailleurs ça pourrait être celui-là qu'on s'écoute, je sais pas. Un peu C'est tout hyper bien, Jamais jamais aussi hyper bien. Enfin, bon, il y a plein de morceaux hyper bien. Est-ce que toi il y en a un qui reste cher à ton cœur en particulier ou t'aimes
non,
tout l'album
moi c'est
encore
un peu mes enfants donc ouais. je vais pas en choisir un. Après oui, par exemple Élégie, je trouve ça Après, au moment où ça sort, en même temps, ça me fait flipper le retour dithyrambique. C'est-à-dire que, qu'à la fois, d'un coup, ça, on me raconte que c'est un chef-d'œuvre. Et j'ai du mal à le croire, moi. Tu vois, pour moi, un chef-d'œuvre, c'est, je sais pas, c'est Ravel, c'est Abbey Road, ou c'est, je sais pas, what's going on, quoi, tu vois. Et
En plus, d'où tu sors, enfin, les années 90, on l'a compris, à la fois des opportunités, des rencontres géniales, etc. Mmh. Mais c'est pas l'explosion de ta carrière. Mmh. Et c'est à travers la collaboration à cet album, tout d'un coup, il y a un renversement fou qui se passe.
Ouais.
T'as dû même te questionner, toi, sur ton rôle en tant qu'artiste. Pourquoi c'est avec ça que ça marche?
Non, ça, en même temps, j'étais content que ça marche, hein, parce que d'un coup, tu te dis, bon, à la fois, c'est un énorme souvenir, et à la fois, c'était génial. Et je me souviens d'un soir, je suis avec un super ami, et puis il me dit, mais c'est bizarre, ça se passe hyper bien pour toi, et t'as l'air mal.
Ah, c'est bizarre.
T'as l'air mal, et je comprends pas pourquoi, et je le regarde, je fais, je comprends bien que tu ne comprennes pas pourquoi. Et d'ailleurs, Daniel était hyper content, hein, mais derrière, il s'est fait une méga dep. Hein, Moi, j'adore cette phrase. Enfin, moi, ça a toujours été ma référence, les Beatles là-dessus. Et quand, je crois que c'est Harrison, on lui dit, mais quand même, vous êtes, c'était dingue ce qui vous est arrivé. Vous étiez devenu fou, non? Il fait, non, nous, on était tout le temps, les quatre normaux, c'est juste le monde entier qui était devenu fou.
Ouais, donc tu sens la frénésie, en fait, autour. Et toi, t'es là, tu comprends pas.
Et par exemple, dans Crève-Cœur, il y a quatre musiques de mon premier album solo.
Ah ouais.
Et quand d'un coup
les gens ils disent c'est génial et tout.
Ouais voilà. Et en même temps ils disaient qu'ils adoraient mon album avant. Et donc je disais forcément ils n'ont pas écouté. Parce que,
ah, tu les as repris tels quels.
Non, j'ai changé.
Les compos quoi à peu près.
Ouais. En fait on aimait beaucoup Lou Reed, Daniel et moi. Et Lou Reed, son chemin, il a été très tumultueux aussi, ça s'est pas fait. Donc parfois, il a repris des morceaux du Velvet pour sa carrière solo. Enfin, ça s'est fait... C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as quelque chose, plutôt que de créer quelque chose, autant repartir d'un truc qui te semble pas mal, et puis tu l'améliores encore, ou tu l'adaptes, ou...
C'est un discours qu'on a entendu de la part de plusieurs artistes dans cette émission qui disent, en fait, ils font toujours le même album, entre guillemets, mais c'est-à-dire qu'ils retravaillent la matière, ils l'améliorent, ils la transforment, ils repartent jamais de zéro. Cette dimension de...
Ouais, mais tu vois quand même le côté un peu injuste du truc, c'est-à-dire que, c'est une histoire de timing, quoi.
Et puis d'incarnation.
Au moment où les gens sont prêts à le recevoir, en fait.
Oui, aussi. D'incarnation de rencontre, qu'il y a quand même Daniel Dark,
bien sûr,
qui incarne le truc, et ça change, j'imagine, le rapport qu'on a.
Attends, c'est quoi le contexte Donc là, tu dis 2004, hein, cet album. Il y a qui en 2004 en chanson française?
Il y a beaucoup. En fait, justement, on a profité de ça aussi, de ce qu'on appelait la nouvelle chanson française.
Okay.
Donc il y avait Miossec, il y avait Dominica, il y avait aussi donc Mirvès qui cartonne avec Madonna, mais donc il y avait la French Touch aussi. Il y avait le début des Daft, il y avait aussi Air. Donc il y avait un truc comme ça où c'était encore l'industrie qui était quand même assez flamboyante.
C'est à quel moment que l'industrie allait en full crise?
On est juste à la fin. C'est le début de la fin.
Écoutons quand même, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure. Je propose qu'on commence juste avec Je me souviens, je me rappelle, qui est quand même un peu le tube de l'album, et après Élégie, que tu as cité, si quand même, on s'écoute un extrait aussi.
Je me souviens, je me rappelle, ces temps, ces vieux chers à mon cœur. Le jour baissait, j'étais près d'elle. Je me foutais bien du malheur. Dissimule dans le silence des sentiments, des espérances qui montent et plongent sans bruit, étoiles brillantes dans la nuit. Je me souviens, je me rappelle.
Ça, c'est je me souviens, je me rappelle. Alors, il y a Élégie aussi que tu as cité. Franchement, j'invite vraiment tout le monde à aller écouter l'album. Il est vraiment bien, cet album. Oh.
baiser ouvert sous tes pas. Va doucement, car sur mes rêves, tu vas.
Super bien ce morceau aussi. Tu sais ce que je me suis dit en réécoutant là-bas? Je l'avais, alors pas à sa sortie, mais je l'avais écouté il y a quelques années, et donc là, pour l'émission, je l'ai réécouté. C'est qu'il y a une espèce d'influence du sampling, voire du hip-hop à des moments.
Carrément, j'étais en train d'écouter.
De fou, hein?
Ouais. Ouais, carrément.
J'allais dire justement, c'est point matos, donc t'as tout fait chez toi?
Ouais.
Avec quoi alors?
J'avais un sampleur,
okay.
Un EMU, EZ4000, une guitare, un micro.
Ouais.
Mais ouais, j'avais presque rien. J'aimais beaucoup un disque de Day One là qui était sorti sur le label de Massive Attack, mm-hmm. à ce moment-là, Wu-Tang Clan, que bah, tu vois, je, et un mélange de ça par rapport à
on sent les textures à la Massive Attack justement.
Ouais,
sur
ouais, ouais, effectivement, il pourrait y avoir un côté trip hop effectivement, ouais. C'est ouais, l'époque. Ouais. Ouais.
Donc c'est vraiment l'album solo de Daniel Dark, c'est-à-dire ouais. que là je vois la pochette, ton nom n'apparaît pas en fait. Hein. Mm-hmm. Mais toi, tu considères que c'est vraiment c'est un duo, quoi.
C'est le... Ah ben bien sûr, hein, parce que c'est ma musique, c'est moi qui joue tout. Mmh. Donc bien sûr, c'est comme un duo. Sauf que je choisis de mettre
ouais.
Daniel
et tu le laisses en frontman.
Seul en frontman. Ouais. Ouais.
Et d'ailleurs, on peut d'autant plus parler de duo où en fait, alors Crève-Cœur va marquer vraiment une forme de renaissance, y compris médiatique, artistique, etc. Notamment pour Daniel Dark, toi aussi évidemment un changement. Mais en fait, c'est une collaboration qui va durer. C'est-à-dire que vous allez faire d'autres albums.
Oui, oui, oui.
Il va y avoir Amour Suprême.
Oui.
Il va y avoir La Taille de Mon Âme. T'es
non,
dessus,
La Taille de
t'es
Mon Âme. Dessus. Non, okay. Je suis plus dessus.
Et sur Chapelle Sixtine, qui est son tout dernier
non
album,
plus, non plus.
Okay.
En fait, Daniel est revenu me voir 15 jours avant qu'il meure. Il voulait qu'on travaille ensemble. Et puis il est parti. Il y a un an, j'ai sorti un album hommage qui s'appelle Cœur Sacré, ouais. où il y a Jane Birkin, Étienne Dao, Dominica, Peter Doherty, c'est comme ça que j'ai connu Peter, Michel Houellebecq. Mmh. Et, j'ai sorti aussi tout un, en fait, j'ai, en cherchant des disques durs, je me suis rendu compte que j'avais un album et demi d'inédits que j'avais complètement oublié, quoi. Et donc j'ai sorti cet album avec avec des graphistes qui s'appellent MM, comme c'est Kanye West par exemple ou Madonna, et une photo d'Jürgen Teller qu'on avait faite à l'époque. Et voilà, c'est le troisième album. Qui était posthume. Que j'ai...
Oui, parce que c'est sorti en 2023. Ça, alors c'était ouais. pour célébrer les ouais. 10 ans du décès de Daniel, j'imagine.
Ouais.
Et donc il y a à la fois cet album hommage, et puis il y a aussi Parenthèse Enchantée, c'est ça, avec tout, qui est un autre album encore, mais
ouais.
avec des trucs que vous aviez enregistrés
inédits,
à cette
ouais.
époque-là.
Ouais. Ouais, ouais, carrément.
Alors évidemment, ça c'est une collaboration marquante. Est-ce que c'est justement le fait que toi tu sois un peu mis dans la lumière, honnêtement, à ce moment-là, avec ouais. Crève-Cœur, qui fait que, en fait, tu vas enchaîner, mine de rien, pas mal de collaborations avec d'autres gens.
Ah ben bah ouais, carrément, le téléphone n'arrête plus de sonner, quoi.
Encore ce truc bizarre de tout ou rien.
Bien sûr, ouais.
Comment tu le vis, comment tu gères ça, comment les sollicitations, comment tu choisis tes projets?
Oh, écoute, entre le cœur et l'argent. il faut voir que quand... quand je termine de produire Crève-Cœur, j'ai pas un rond, j'ai emprunté 10 ou 15 000 euros à ma sœur et ma mère. Et donc, d'un coup, quand tout le monde m'appelle pour que je travaille avec eux, voilà, il y a des trucs qui me plaisent et puis d'autres moins, mais si c'est très bien payé, je suis très anglo-saxon. Hein, take the money and
run. Ouais, bah, faut être pragmatique, quoi.
Ouais, voilà. Mais toujours pas par revanche ou par je m'en foutisme, parce que d'abord j'ai envie de continuer à faire des choses qui me plaisent, donc pour ça j'ai besoin d'être autonome financièrement, mm-hmm. parce que sinon faut avoir un autre travail, enfin ouais. Tu vois. Et puis aussi je me rends compte qu'en travaillant sur des projets qui ne me plaisent pas toujours, Ce que je trouve intéressant, c'est pourquoi ils font appel à moi. Et s'ils font appel à moi, c'est qu'est-ce que je peux leur apporter. Et j'accepte que des projets sur lesquels je me dis je peux apporter quelque chose.
Ok, et donc c'est pas juste être un musicien de genre de session.
Non, 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 c'est vraiment donner un point de vue, avoir une vision,
influer
sur le résultat. Mmh. Et puis ça me permet aussi de d'engager plein d'amis pour faire des séances, de pouvoir travailler à Bayreuth, de faire des cordes ou à Air Studio. Et là, quand d'un coup tu travailles, ça te décale un peu, quand tu travailles sur autre chose que vraiment ce qui est ton truc, tu progresses aussi autrement, tu vois. C'est-à-dire que, je sais pas, si t'es habitué à faire des chaises, mais d'un coup on te demande de faire un canapé, ok, tu te dis bon, ok, je sais pas faire un canapé, mais
je vois à peu près.
Mais je dois pouvoir le faire. Et qu'est-ce que serait ce canapé qui me plairait?
Est-ce qu'à ce moment-là, t'es encore dans une forme d'apprentissage, de métier, de réalisateur, d'arrangeur, ce qui est pas forcément à l'origine ton premier truc? Tu l'as dit, t'as appris avec des gens comme Dominique Blanc-Francard aussi, etc. Alors ça, c'est plus le côté ingé son. Mais j'imagine qu'il y a des compétences à acquérir, tu vois, au fur et à mesure.
Ah mais moi j'ai toujours l'impression d'apprendre, hein, de toute façon. Donc en fait, c'est aussi t'as aussi des moments où tu réalises des artistes où parfois ils peuvent être nuls, mais parfois ils peuvent être très bons, même si c'est pas forcément des chants que tu as écoutés ou que tu écouterais. Tu vois, je pense par exemple à un gars comme Maxime Le Forestier.
Ouais, qui t'a travaillé.
Voilà, quand tu l'as devant toi et que d'un coup il chante sa chanson et qu'il te joue de la guitare, ça arrive pas, hein, quand même. Hein, ouais, vois, le mec, il m'a fait écouter des duos qu'il faisait avec John Baez ou. Voilà, le mec,
il est en place quand même.
Donc d'un coup, qu'est-ce que tu peux lui apporter aussi? Comment tu fais pour pas te faire virer au bout de deux jours, tu vois? Qu'est-ce que t'apportes, en fait?
C'est cool parce que ça te permet, toi, de sortir un peu de ta zone de confort.
Mais carrément.
Sinon, tu serais resté dedans à faire tes trucs à toi.
Mais c'est exactement ça. Ouais. Moi, j'aime beaucoup sortir de ma zone de confort. Mmh. Tu vois, par exemple, c'est marrant parce que tu parlais que ça pouvait être les morceaux de Crève-Cœur, ça pouvait être du hip-hop. Mmh. Moi, j'adorerais bosser avec des gamins qui font du hip-hop. Hein. Tu vois, j'ai toujours aimé faire des choses qui étaient pas forcément évidentes.
Et t'as l'impression de devenir un meilleur musicien pour même tes projets solo, etc., en apprenant avec ces gens-là?
Bien sûr. Le truc est simple, c'est qu'à même si t'es vraiment mauvais au départ, à force de faire, à un moment donné,
tu peux pas rester mauvais, quoi.
Voilà, tu progresses.
Il y a des gens,
des noms.
Tu progresses. Et puis là-dessus, moi, je botte en touche. Par exemple, mon instrument, c'est la voix et la guitare. La guitare, j'ai pas l'impression d'être guitariste non plus. C'est juste des outils, des vecteurs d'expression, en fait. Alors aujourd'hui, il peut m'arriver de faire des masterclass dans des conservatoires, etc. Ou même après, on me demande de jouer un morceau. Et tu vois, à un moment donné où je me demande si oui ou non, j'ai
est-ce que je suis capable de
ma place là. Mais
ah, t'as encore ce questionnement?
Mais bien sûr, toujours.
Ah ouais.
Mais bien sûr. Mais en même temps, à la fois tu l'as et puis en même temps tu le.
Oui, c'est pas un truc qui paralyse, quoi.
Tu le balances, quoi. Ouais. Oui, c'est ça.
C'est bien. Ça veut dire que, en fait, même aujourd'hui, t'as toujours un peu, enfin, la prise de recul sur ta propre position par rapport à 12 ans, en disant, mais est-ce que je suis vraiment.
Mais bien sûr.
Ok.
Bien sûr.
On disait qu'après Crève-Cœur, t'as enchaîné beaucoup de collaborations, t'as cité Maxime Le Forestier. Si tu devais en citer quelques-unes marquantes qui ont été intéressantes pour toi, t'as eu l'impression d'apprendre des trucs ou qui t'ont sorti justement de ta zone de confort, tu as dit que tu aimais ça, tu peux nous en citer quelques-unes, nous en parler rapidement?
Bah, par exemple, tu vois, la même année où j'ai fait Maxime Le Forestier, j'avais fait un single où d'un coup il passait à la radio, il n'avait pas fait ça depuis 15 ans. Et la même année, j'ai fait Les Pony Pony Run Run et You, qui était un énorme tube.
C'est monstrueux, ça.
En même temps, pour les gens, ça n'avait rien à voir. Et puis en même temps, moi, j'avais l'impression que c'était le même travail.
Peut-être qu'on peut s'arrêter là-dessus parce que c'est un album étonnant. Alors déjà, c'est un groupe qui n'est pas encore installé. C'est même le premier album du groupe.
Ah ouais, c'est le premier album.
Tu réalises, c'est ça l'ensemble de l'album.
Ah oui, oui, oui. Et je joue. En fait, en réalité, je suis pas crédité comme musicien, mais je avec le chanteur, je joue tout.
Ouais. Mais du coup, enfin, quand les gens, alors on va se l'écouter, bien sûr. Mais quand les gens viennent te voir, en fait, c'est de ton point de vue, du coup, c'est quelle esthétique qu'ils cherchent ? C'est quoi le
c'est quoi ta patte ?
C'est quoi ta patte ? C'est quoi la touche low ?
Honnêtement, je sais pas. Moi,
la low touch.
Je sais pas.
C'est ton côté mélodiste. On citait le terme mélodiste au début.
Oui, et puis aussi, je sais pas comment expliquer. C'est toujours très compliqué à expliquer ça, mais sur des artistes qu'on adore, quand c'est réussi, c'est évident que c'est réussi. Et t'as les mêmes artistes où d'un coup l'album est pas bien. Elle est où la différence entre un disque raté et un disque réussi?
La question, c'est si on juge à l'aune de la réception du public, la question c'est est-ce qu'il y a de la mauvaise musique ou est-ce qu'il y a juste un mauvais timing, tu vois?
Non, mais
parce que toi-même tu l'as vécu, c'est-à-dire que tu fais des trucs.
Oui.
Ça prend pas plus que ça, tu reprends exactement les mêmes trucs et tu les mets dans un autre contexte, à un autre moment, et là ça marche. Donc tu te dis bien, bon, la première réaction ce serait de dire les gens c'est vraiment des connards, mais en fait c'est pas ça le truc.
Non, parce qu'en même temps, pour moi, c'est pas parce que si ça plaît à deux personnes ou à 2 millions, je sais pas s'il y a une grosse différence.
En termes de SACEM, je pense que
oui, mais en termes de
l'artiste,
rendu,
c'est pas ta priorité.
Mais oui.
Ouais.
Tu prends le premier album du Velvet Underground, il est revenu chez lui, ils en ont vendu 1000, alors qu'il y avait Andy Warhol, et puis depuis 60 ans, c'est un des albums cultes du rock. Donc en fait,
oui, donc ça veut dire que, en fait, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des trucs qui marchent au moment où on les sort,
oui.
Et puis après, tu peux avoir une longue traîne où finalement, il y a un truc qui n'a pas plus marché que ça, mais qui 20 ans après ou 30 ans après.
Oui, mais ce que je veux dire malgré tout par là. C'est que si ça marche après ou si ça rencontre pas son public au moment où ça sort, si t'as l'impression que t'as vraiment un bon album, tu t'as cette impression.
Ouais, tu le sens, tu le sais. Ouais.
Et quand tu... Moi, ce que j'essaye de faire, c'est que tant que j'ai l'impression que c'est pas fini, je continue. Pareil, parfois sur les choix des chansons, tu vois, je vais avec un artiste ou avec un groupe, et puis je dis, ça c'est une bonne chanson, ça non, ça c'est une bonne chanson, ça non. Il me dit, mais pourquoi, c'est quoi? Je dis, je sais pas, j'ai cette impression. Tu vois. Il fait, oui, mais je suis pas d'accord avec toi.
Ok,
non mais pourquoi pas? À ce moment-là, il y a un autre débat, par exemple, si je donne des conseils en studio et qu'on m'écoute pas, je vais poser cette question un peu en déconnant. Je fais, mais si tu me payes pour que je sois là et que tu m'écoutes pas, tu peux économiser cet argent et puis le faire tout seul. Je dis pas que j'ai raison. Non. C'est juste un point de vue, en fait.
Et comme on vient de chercher, c'est aussi pour écouter ton point de vue.
Voilà. Après, je peux aussi rater des trucs. Je peux aussi faire que ça marche. Je peux aussi faire que ça ne marche pas.
Ça s'est mal passé parfois. Il y a eu des collaborations où vraiment c'est pas bien passé.
Parfois, ça peut être différent. C'est-à-dire que pour moi, qu'est-ce que c'est mal marché? C'est-à-dire que pour moi, le but, c'est que le disque soit bien. Parfois, humainement, ça se passe hyper bien. Parfois, tu peux travailler avec un artiste, t'as l'impression qu'il va se tirer sans arrêt une balle dans le genou.
Ouais.
Et donc, en fait...
Mais tu peux quand même faire un bon album. Tu peux ne pas t'entendre avec l'artiste et faire un bon album.
Tu lâches pas le truc pour... pour arriver à ce que ce soit ce que tu penses être un bon album, ouais. Donc oui, par moment ça peut être dans la joie et dans la bonne humeur, et par moment ça peut être plus tendu. Mais ce que je veux dire par là, à chaque fois je dédramatise le truc en disant que ce n'est pas une lutte d'ego, c'est juste préserver la liberté du chemin de la chanson. Tu vois, c'est un peu pour moi, c'est un peu comme il pleut, t'as des gouttes d'eau et certaines gouttes arrivent à la mer et puis d'autres s'évaporent. Parfois, certaines vont dans un lac ou dans un petit étang.
Ils sortiront jamais. Ok. Voilà.
Bon, en tout cas, celle que je voulais écouter depuis tout à l'heure, elle est pas allée dans un petit étang. Là, ouais. C'est l'océan. C'est, ouais. Ah, et pas you, mal. C'est n'importe quoi ce qui s'est passé avec ce morceau. Encore aujourd'hui, il a 35 millions de streams juste sur Spotify.
Ouais.
C'est, tu nous diras après d'ailleurs si tu vis encore un peu sur ce morceau. On s'écoute You. Pony Pony Run Run.
Il y a une explication, c'est une synchro, non? Il n'y a pas eu une...
En fait, je crois que c'est après le succès, c'est devenu... Il y a eu des génériques de télé, je crois, qui utilisaient le morceau. Il y a eu plein de trucs et tout, mais c'est plus a posteriori. Il a juste pété de lui-même, je crois, le morceau.
Ah ouais, voilà. Non, mais c'était dingue. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas fini l'album que le morceau est passé sur Virgin Radio, genre 10 fois par jour. Le groupe est passé de La Boule Noire au Zénith en un an.
Ok.
Non, c'était complètement dingue.
Ouais. Moi, je me rappelle, c'était à l'époque, tu sais, où la musique sur Internet commençait à se développer à fond. Il y avait énormément de blogs de musique, machin, et tu pouvais même télécharger des MP3 dessus. Et je me rappelle, et même le groupe avait mis, je sais pas si le groupe l'avait voulu d'ailleurs, mais il y avait des stems qui tournaient, où on avait juste la voix et tout. Je me rappelle avoir fait un remix. Ouais, je me rappelle. Ouais, mais c'était vraiment un énorme tube. Et je rigolais avec le côté, est-ce que tu vis encore avec ce morceau? Mais parce que on a assez peu parlé du métier d'arrangeur ou de réalisateur dans cette émission. Justement, en termes aussi de, bah voilà, quand il y a un morceau qui marche bien, on sait que le producteur va prendre... il a un intéressement quand même, et globalement, si le morceau marche bien, ça va bien se passer pour le producteur. Potentiellement, les artistes, il peut y avoir aussi des droits intéressants, notamment s'il y a des éditions intéressantes. Le réalisateur, l'arrangeur... Alors en plus, toi, t'as joué des morceaux. Tu t'y retrouves quand il y a des gros tubes comme ça pour vivre de ta musique?
Tu veux que je te parle honnêtement?
Ouais.
Écoute... J'ai fait une de mes plus mauvaises affaires sur ce titre.
Ah, c'est dommage.
En fait, je bossais énormément à ce moment-là. Donc, je gagnais bien ma vie. Hein. J'avais fait Crève-Cœur, j'avais fait Maxime Le Forestier, Stéphane Echer. Et je tombe sur ce groupe. C'est un jeune label qui s'appelait Troisième Bureau. Le gars, Stéphane Espinoza, qui quand même a eu le nez fin. Dans la même année, il a signé Orelsan, les Brigitte et les Pony Pony Run.
Pas mal.
J'aimais vraiment le groupe. Je trouvais que ce que j'aimais, c'est que, après, en étant en France, après Crève-Cœur, beaucoup d'artistes que je vais produire, plus ça va, plus c'est quand même, la variété française bourgeoise et j'ai rien contre mais c'est toi. Loin quand même de ma base et en les rencontrant eux d'un coup ils avaient fait les Beaux-Arts ils avaient 15 ans de moins que moi d'un coup c'était un peu comme un groupe de rock comme quand moi j'étais gamin et j'avais vraiment envie de le faire et au début ils étaient 5. Il y a un membre qui part juste avant de rentrer en studio. Le batteur avait un autre groupe qui s'appelait Anora, qui était absolument...
Oh, cool.
Il aimait pas jouer de la batterie alors que c'était le batteur. Enfin, il était en Australie après. Et puis, au bout d'un mois et demi de studio, je réalise qu'en fait, les trucs que je préférais, c'était le chanteur qui les faisait tout seul. À un moment donné, on a une discussion... tous les deux, Et d'un coup, en fait, on... je lui demande ce qu'il veut, parce que je voyais bien qu'il voulait que moi, je fasse un putsch, mais je lui dis, moi, c'est pas mon job, là. C'est, en plus, un des membres, c'était son frère, enfin, c'était une bande d'amis, etc. Je lui dis, OK, si tu veux, on continue ensemble à faire cet album, et puis, bon, les autres, on verra bien ce qu'ils font ou pas, mais...
C'est-à-dire que la vision artistique n'était pas du tout partagée par...
Voilà, et en fait, les trucs... Donc d'un coup, on se met à travailler tous les deux ensemble. Et donc en fait, une partie de ces gros, de ces morceaux,
c'est les tiens.
On aurait dû les signer à deux. Mmh. Sauf que lui, il les avait déjà signés à cinq. Et j'ai dit, OK, si moi je rentre dedans, on va signer à six. Mmh. Et donc en fait, j'y laisse tomber, tu vois. Enfin, donc
c'est pas grave.
C'est pas grave, ouais. Laisse tomber. Parce que j'avais quand même un intéressement sur les ventes de disques.
Ouais.
Parce que déjà sur les ventes de disques, comme moi, j'avais 3 points et qu'eux, ils devaient se partager 10 points à 5, ils avaient déjà 2 points. Donc j'avais déjà 1 point de plus que lui sur les ventes de disques. Je dis si je vais pas te tendre sur les.
Oui.
Parce que tes rôles officiels vraiment sur l'album, t'es crédité en tant que quoi exactement?
Comme producteur.
Okay. Ah, je suis producteur, ah oui.
Non, mais comme réalisateur.
Ah, comme réalisateur. Oui, d'accord. Oui,
comme réalisateur, okay. Arrangeur. Mais j'ai pas de droit d'arrangement. J'ai pas de, je co-signe pas les chansons alors qu'en fait j'aurais dû le faire. Et là-dessus, je suis pas non plus musicien. Alors j'ai dû toucher de la Speedy-Dame. Enfin bref, ça devait un peu chiant.
Non, mais.
Mais donc en fait.
Toujours le côté.
Donc
business.
En fait, sur ce morceau où en fait. J'aurais dû toucher de la SACEM, je l'ai pas fait. Après, j'ai pas de regret là-dessus, parce que c'était des jeunes mecs, je le trouvais talentueux. Déjà, il partageait avec plein de mecs qui avaient presque rien fait. Je trouvais ça, voilà. Au moment où j'ai choisi ça, personne m'a forcé, donc j'assume ces choix.
Oui, y a pas de regret, ouais.
J'ai pas de regret.
Après, mais du coup, ce track-là, Hey You, quand
il est en synchro, par exemple, je touche rien.
Ah ouais.
Et ouais.
Ah ouais. Et ça, tu savais que en studio, quand vous l'avez fait, celui-là, c'était un truc qui allait marcher, ou tu disais ouais, il est cool.
Mais... Ah non, pas du tout. Ouais, je savais pas que ça allait marcher autant. Ouais. Et encore, là, il y a 35 millions de sur Spotify, mais avant, il y avait pas Spotify, ce qui fait qu'en fait, avant, il y avait déjà 100 millions sur YouTube. Enfin voilà.
Non, mais il a tourné de manière absolument incroyable.
Après voilà, écoute, c'est comme ça.
Petit avocat quand même.
Non,
même
pas.
Mais c'est marrant que tu décides.
Non, et je suis resté ami, par exemple, avec le chanteur, qui lui, alors lui, c'est étonnant parce que
il a pas continué dans la musique.
Écoute, ils ont fait 2 albums après.
Ouais.
Ouais. Et le troisième, j'ai réalisé, mais en fait, le succès, ça l'a,
Ça a tout bousillé, en fait.
Ouais, complètement, ouais.
Ça l'a éteint, ouais.
Ça, c'est hyper bizarre. C'est un mec hyper doué. C'est un mec vraiment talentueux. Et c'est comme si ça lui avait enlevé l'envie, le désir.
La pression, je pense que... Ouais. Parce que les gens t'attendent derrière, faut que tu puisses faire au moins aussi bien, machin, etc. Je pense que c'est paralysant, même.
Oui, mais je sais pas pourquoi ça lui a autant enlevé l'envie. C'est assez étonnant, ouais. Comme une sorte de burn-out.
En tout cas, je savais pas du tout que Anorak avait fait partie de Pony Pony Renoir, parce que c'est un mec que j'ai suivi. Il était proche d'un collectif nantais qui s'appelait Valérie et d'un mec qui s'appelle Collège, notamment.
Tout à fait.
J'adore Collège, j'ai beaucoup écouté les trucs.
Mais c'est des Nantais, c'est des gars d'Angers, en fait, les Pony Pony Renoir.
Ok. Mais je savais pas du tout que c'était les mêmes réseaux. Il y en a eu plein de collaborations. On peut pas parler de tout. Je les cite pêle-mêle. Tu me dis si, parce que il y en a aussi certaines qu'on trouve sur Wikipédia. Alors je sais pas si tout est juste, mais Hubert Félix Thiéphène, Marc Lavoine, Alizé, Florent Pagny, Jacques Naud, Cali. Ouais, bon, t'as fait quelques beaux noms. J'imagine qu'il y a plein d'histoires à raconter avec tous ces gens-là. Mais peut-être qu'on peut s'arrêter pour terminer cette partie, puis parler un peu de tes albums solo quand même.
Okay.
L'autre duo iconique que tu as formé après celui avec Daniel Darc et celui avec Pete Doherty, parce que vous avez fait vraiment un album là, avec vos deux noms. Mm-hmm. Tu participes à tout. Voilà, là, c'est un de tes albums, clairement. Mm-hmm. Tu as dit que la rencontre avec Pete, elle se passe... Parce qu'il y a cet album hommage à Daniel Darc, c'est ça?
Tout à fait.
Et comment on se retrouve avec... Alors, C'est marrant parce qu'il y a des parallèles à faire avec Daniel Dark, entre, avec Pete Doherty.
Au niveau de la, de la
Destroy. Il a connu.
Hygiène de vie.
Ouais.
Mais surtout, il connaît le succès phénoménal. C'est un prodige de la musique, en tout cas dans la réception publique, commerciale, etc. Enfin, il fait partie d'une vague revival rock absolument phénoménale. Il connaît un succès fou. Il a une vie absolument dissolue. Il tombe dans le creux de la vague terrible. Et puis il revient depuis quelques années, et cet album fait partie de cette forme de renaissance, une nouvelle renaissance. C'est marrant cette histoire.
Il n'est pas remords entre temps parce que.
Oh non, là je crois qu'il sort un truc en ce moment, non? Ou je dis une bêtise?
Il va sortir un album solo la semaine prochaine, hein.
Ouais.
La semaine prochaine, ok.
Donc non, il fait un peu de médias, etc.
Ce que j'avais vu passer sur des vidéos où on dirait un fermier du.
Bah en tout cas, lui c'est ce qu'il dit. En tout cas, il est sobre aujourd'hui, il se reprend en main, etc. Je crois que la musique est importante pour lui. Okay. Machin, après, c'est pas ce qu'il dit. On va pas demander à Frédéric qu'il connaît bien s'il est réellement de sa groupe. Mais non, par contre, il faut que tu nous parles de cette collab. Comment tu te retrouves avec cette icône anglaise, icône quasi internationale, en tout cas européenne, importante?
Ah ouais, internationale, ouais. Écoute. Donc je veux réaliser cet album en hommage à Dark, et je voudrais qu'il y ait que des gens qui ont un vrai sens sur la carrière de Daniel, mais en même temps mettre quelques pas de côté. Par exemple, je contacte Julien de Stupeflip parce que je sais qu'il adorait Crèvecoeur. En même temps, je trouve ça marrant parce que d'un coup il fait Paris, il a fait une version un peu différente. Et je veux qu'il y ait un petit peu d'international. Là-dessus, je contacte Marianne Faithfull, mais elle a eu le Covid et elle est pas en forme et ça se fait pas. J'avais fait un album avec un Anglais qui s'appelle Bill Pritchard, et Bill avait fait un album avec Daniel. Donc spontanément, je demande à Bill de participer. Et puis... Daniel et moi, on aimait Amy Winehouse et Peter. Un peu comme sorte de renouveau, aussi de sorte de junkitude, mais en même temps d'un côté flamboyant aussi, d'un côté vraiment quand même...
avec une fougue en tout cas.
Oui, voilà.
D'énergie.
Ouais, et puis vraiment une sorte de... un truc post-punk, c'est-à-dire sans filtre. Tu vois, une mise en danger, quand tu vois Amy Winehouse, quand elle se chante I don't want to go to rehab, and I say no, no, no. Enfin, they want me to go to rehab. Bah, y a un truc comme ça de mise en danger qu'on avait un peu perdu de vue, quand même. C'est juste avant, dans les années 90, 2000, c'était plus des plans de carrière, et là, d'un coup, Peter et Amy, c'est l'anti-ça. Et
mais avec une esthétique très désuète pour Amy Winehouse.
Oui, bien sûr.
Mais avec une recette modernisée qui fonctionne, quoi.
Ouais, une sorte de Motown un peu modernisée. Et Peter, donc d'un coup, je me dis tiens, c'est une bonne idée. Je vais je cherche à le rencontrer. Et à un moment de J'ai souvent été dans des studios d'enregistrement. À un moment, j'étais dans un studio qui s'appelait Question de son, et les B.B. Shumble avaient fait un album avec Stephen Street, qui était producteur des Smiths.
Un des groupes de Pete Doherty.
Et Blur, ouais, voilà. Et donc, j'avais croisé Peter là-bas pendant 2 mois, et très vite, je le voyais hyper sympa, il m'appelait par mon prénom, buvait du thé. Enfin, j'arrivais un peu
il buvait du thé.
J'arrivais un peu quand il allait se coucher, quand même. Et donc, je me dis, tiens, ouais, c'est une idée. Et j'arrive à le contacter, j'arrive à le voir, je vais à Étretat avec ma guitare. Et puis,
il vit
à Étretat. C'était juste, on était juste en fin de, en fait, on était dans la deuxième partie du Covid. Il était parti là-bas, pendant le Covid. Donc, on est en juillet 2020. Et quand il me voit arriver, je vois son visage qui doit se dire qu'on se connaît, et je lui rappelle que j'étais dans ce studio, et ça brise un peu la glace comme ça. Et puis hop, il m'amène du thé.
Je me demande s'il parle vraiment de thé à chaque fois qu'il dit thé.
Non, on boit du thé.
C'est un nom de code.
Et puis là d'un coup, du tac au tac, un peu l'anglo-saxon, on parle pendant 1 heure, et puis d'un coup, il me dit « Play me the song ». Ah, puis il me file sa guitare, alors que j'ai la mienne, bon, ok. Tu vois, tu respires un bon coup, et puis tu joues la chanson. Je l'avais fait traduire en anglais. C'est inutile hors d'usage, donc qui devenait Without Use and All Used Up. Et c'est vraiment une histoire de Daniel qui se sent au fond du trou et en fin de vie. Et donc je joue à ça à Peter et je me sens comme un coquillage jeté au bord de la mer. Et Peter qui fait 1m88 quand même, qui est un gaillard. D'un coup, je le vois pleurer.
Avec ce morceau de Daniel Darc.
Ouais. C'est dingue, quoi. Donc il me dit oui, mais il me dit mais c'est en fait je viens de comprendre que c'est ta musique, que tu fais un disque sur ton ami qui est mort. Et puis d'un coup là il sort des bières.
Ah.
Et alors là on boit des voilà. bières. Et puis j'ai sa guitare et puis il me dit mais explique-moi. Et là je lui joue des chansons de Crève-Cœur. Je lui explique, je lui joue Rouge Rose. Puis il me dit j'adore tes chansons, j'adore ta voix. Et puis, à un moment donné, on parle, et puis je joue un truc comme ça, et puis il me dit, mais c'est quoi ça? Je dis, je sais pas, c'est un truc que je joue en ce moment, c'est un début de chanson. Et donc, il voulait absolument qu'on enregistre la chanson de Daniel tout de suite. J'ai dit, mais là, tout de suite, j'ai pas de matériel, mais je peux revenir la semaine d'après, où là, on prêtait la magnifique maison qui est en couverture de l'album. Mmh. Où t'as une magnifique maison du 19e siècle, une maison bourgeoise, un truc de dingue. Un ami, pareil, ça c'est des trucs de dingue, c'est un ami qui est fan de mon travail et qui réussit énormément dans les affaires et il adore la musique. Et donc lui, il m'a filé sa maison pendant, au début, je pensais que c'était un jour et puis en fait, j'ai travaillé pendant 6 mois peut-être. Mmh. Et là, on a cette magnifique bibliothèque. J'ai un laptop comme ça. J'ai 2-3. J'ai une carte son.
Simple
et
quand même. Donc,
un
simple.
Truc très simple, ouais. J'avais enregistré un guitare-voix. Et puis, poum, on enregistre la chanson. Without Use and All Used Up. Moi, ça me met les poils. Et puis, Peter...
t'enregistres des maquettes ou c'est vraiment le produit final qui va être ensuite mixé, etc. Mais
ça, moi, j'ai appris justement avec Dominique Blanc-Francard, c'est que on n'enregistre pas de maquettes, on est en production.
Avec ton setup minimaliste, ça apparaît sur l'album derrière, quoi.
Ouais, voilà.
Il n'y a pas de draft.
Il n'y a pas de draft, ouais.
Okay.
Et donc, ce que tu fais, tu dois le faire bien. Je sors du champagne, tu vois. Hein, c'est là, on est en juillet, donc 2020. Et il fait hyper beau. Je suis dans cette baraque de dingue. Je suis avec Peter Doherty. Moi, je suis déjà hyper content d'avoir enregistré cette chanson pour mon album hommage à Daniel. Tu vois, déjà, je me dis, ouais, c'est super. Ouais. J'ai Jane Birkin, j'ai Peter, j'ai Dominica. C'est super. Et là... il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu rentres à Paris? Ben oui, je rentre à Paris. Mais tu voudrais pas qu'on continue à travailler ensemble? J'ai dit, pourquoi pas? J'ai dit, le seul truc, et c'était marrant parce que là, quand j'ai rencontré Daniel Darc, c'était exactement la même. J'ai dit, moi je peux, mais là, sauf que là, je pars en vacances. Donc on se rappelle en début septembre. Ok, d'accord. Et là, on est au mois d'août, mi-août. Moi, quand je suis en vacances, j'ai toujours une guitare. Et très souvent, je compose des chansons quand je suis en vacances. Mmh. Ça me détend.
Donc, tu travailles en vacances, en fait, concrètement.
Ouais, ouais. Mais c'est comme si c'était pas du travail.
C'est pas la même chose. Okay.
Mais non, parce que je suis en vacances.
Ok.
Et là, j'avais commencé à... L'avantage aujourd'hui, c'est que t'as toujours ça sur toi.
T'as ton téléphone dans la main.
Ouais, voilà. Ouais. Et donc, je commence à... Hop. Et là, je suis avec ma famille au bord d'un lac en Savoie. Et hop, c'est Peter, et puis il me dit qu'il est le lendemain à Paris et qu'il veut me voir, et je dis ok, 14h, ok.
Alors que t'étais encore en vacances, t'avais pas prévu.
Ouais, je raccroche, je dis à ma femme, je vais me faire un aller-retour rapide à Paris. Et donc je me retrouve chez Jeannette à l'attendre à côté de chez Question de son. Et bon, il est en retard, normal. Là, il arrive 2 heures en retard, et là, d'un coup, hop, rhum, bière, hop.
Là, on est plus sur le thé, là. Hein.
Et là on va dans le studio, et là, il y a personne. Il y a un open space où il y a un piano. En bas, il y a mon studio avec mes guitares, tout ça. Je monte une guitare, 2 guitares. Et puis pareil, il me parle, on boit des coups, tout ça. Et puis d'un coup, c'est « So, what you've got ?» Donc, je lui joue... 3-4 chansons. qui vont être les premiers singles de l'album. Et là, il se met à genoux devant moi en me disant « S'il te plaît, ce serait un honneur pour moi de pouvoir chanter sur ta musique. »
Ah ouais.
Et là, je me dis attends, c'est on est une semaine avant mon anniversaire, mais peut-être que c'est des potes, ils me font une blague, et ça s'est fait comme ça en fait.
Donc cet album, il s'appelle The Fantasy Life of Poetry and Crime. Ouais, duo, on entend même parfois ta voix un peu.
Ouais, je fais des chœurs, mais sinon je joue tout. Je joue pas les batteries, je joue pas les cordes parce que mais je les écrite et voilà, ouais, c'est même en fait Peter pour lui c'était la première fois où il écrivait juste des textes
et élégant avant tout le reste.
Ouais, voilà.
C'est sorti en 2022. Pareil, franchement c'est un super album, il y a plein de morceaux que j'ai mis de côté. Bon, l'un des tubes c'est You Can't Keep It From Me Forever. On peut peut-être commencer comme ça puis s'en écouter un deuxième, un que tu choisis, le deuxième. On fait comme ça ?
OK.
Allez. Sonne hyper bien cet album aussi. Il a été hyper bien enregistré, hyper bien produit et tout.
Merci.
Ouais.
Donc là, t'es sur ton setup minimaliste ou là, on est quand même dans un.
Non, là, on.
Ouais. On a le matériel quand même.
Ouais. Oui, quand même.
Ouais, mais ça s'entend. c'est. Ouais, alors, parmi les morceaux. Moi, par exemple, j'aime beaucoup Far From the Madding Crowd,
ouais.
Qui est le dernier. Même Abe Wassenstein, il est cool aussi. Même ceux, tu vois, qui ont un peu moins d'écoute. Alors, un peu moins d'écoute sur un album de Pete Doherty et Frédéric Loy sur ces albums, c'est 300 000, hein, le minimum sur Spotify. c'est dans les millions, les gros tubes et tout. Mais ouais, toi, si tu devais choisir un morceau là que tu as envie de faire découvrir aux gens sur l'album.
The Ballad of?
Ouais. Eh ben écoute, c'est parti, on s'écoute un extrait.
Four men in a phone box, they're counting up their shots. The bounty's a sharecropper, someone get chopped, chopped. Someone get nut jobbed. Someone get done jobbed. Jimmy's the maxes, the girls on the mattress. The hats in with fast track, I'm living in flashback. It's how we do the jack jack. The jack jack. Three, five, four, four. Smell the blood of an Englishman. On the esplanade, I only took myself high and away. So did I. Will all top boys and all top dogs bow down? Four men in a phone box, they're counting out their shots. The bounty's a sharecropper, someone get
you. J'aime beaucoup ce morceau. L'arrangement est beau aussi.
Ouais. Du coup, donc là, le processus de travail, c'est lui, il écrit tous les textes.
Ouais, sur mes musiques.
Et toi, t'arrives avec la musique.
J'arrive avec la musique.
Là, oui, on voit qu'il suit bien la mélo et tout.
Ouais.
Ok. Mm. Et lui, quand il écrit les textes, t'as un droit de regard dessus ou il fait vraiment ce qu'il veut et...
Oui. Ce qui était assez dingue, c'est qu'il était hyper humble, même assez flippé. Il avait toujours peur de pas être à la hauteur de ce que je lui proposais, ce qui était assez étonnant.
Ouais, ok.
Après, il était très... il a du mal à se concentrer, mais quand il est dessus, en fait, en deux sessions d'une heure, une heure et demie, il avait un texte. Et hop, on écrit, et hop, on faisait une démo. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, là, il va y avoir une première guitare et une voix témoin qui a été faite après ces deux jours de travail. Ça se faisait assez vite, mais il fallait quand même, être prêt, quoi.
Ouais.
Après, ce qui était
focus et...
hyper focus et en même temps, comme dirait mon ami, faut un ami mixeur, François Dabrière, qui a mixé l'album d'ailleurs, avec qui je travaille depuis 20 ans. Il faut avoir un peu le pied marin, quoi, quand même. Hein. tu peux te baigner à 8h du matin, comme boire des coups, manger des huîtres, enfin, que ce soit un peu chaotique. Mais moi,
c'est un numéro aussi.
Bien sûr, mais moi j'aime ça aussi, parce que c'est pareil, tu faut choper des moments, en fait. Mmh. Après, ce qui était génial, c'était aussi de bah, d'avoir une sortie mondiale, hein. Ça c'est et puis de par exemple on avait fait un film pour Arte qui était dans cette maison qui était super, on a fait des concerts acoustiques, le premier de promotion, le premier c'était 100 Club qui est un club mythique de jazz et de rock à Londres. Où t'as, au début j'ai commencé à regarder les photos des mecs sur les murs, puis après j'ai arrêté parce que tu commences à flipper, quoi. Tu vois tout le monde, tu vois McCartney, ouais. tu vois toute la pop anglaise qu'on connaît. Après le lendemain on avait joué à Liverpool à la Caverne. Mmh. Ou alors là d'un coup il me dit ouais viens, ils nous ont fait une surprise. Alors d'un coup on sort et tu t'as 20 photographes, t'as la télé, et d'un coup ils nous ont t'as un mur, un wall of fame avec des briques où t'as les noms des mecs, et donc tu vois un truc, c'est John, Paul, j'ai ah ouais ça me rappelle un truc, et puis d'un coup ils nous sortent une plaque Peter Doherty et Frédéric Lowe, et puis ils la mettent. Ah ouais, d'accord, ok. Puis tu te demandes un peu si t'es pas en train de délirer aussi, tu vois, si c'est pas... Et puis tu sais plus non plus si t'es pas à Euro Disney en même temps, tu vois, il y a un truc un peu entre... Ou alors on jouait, c'était des sets acoustiques au début, de promo, ça, avant qu'on fasse la tournée européenne. Mais donc on jouait à deux, tu vois, et donc on jouait une demi-heure. Puis après tu fais 3h30 de dédicace, tu vois, alors t'as des gaillards comme ça tatoués partout, t'as des nanas qui ont 15 ans, t'as l'impression qu'on est dans les années 60.
Ouais, de la groupie.
Ouais. Elles veulent ton nom sur leur
sur
bras.
La peau, ouais.
Elles viennent une heure après, elles se le sont fait tatouer.
Ok.
Alors ma grande blague, c'était t'aurais dû me le dire parce que j'aurais mieux écrit, quoi.
Mieux, ouais.
Tu vois, donc t'as ce truc là un peu comme ça, et puis après on a joué dans plein d'endroits, c'était sold out partout. Et lui, tu le sentais hyper heureux de ça aussi. Et puis moi, je trouvais ça dingue, quoi. Tu vois, c'est sûr que c'est des trucs que tu vis différemment, quoi. Tu vois, tu joues au Trianon un soir, le lendemain matin tu joues à BBC, après tu joues à Londres le soir, après tu vas à Berlin, après tu vas...
C'est marrant parce que
ça c'était vraiment génial.
Je pensais vraiment qu'il était, enfin là, moi j'avais l'impression que Pete Doherty à ce moment-là il était quand même un peu en bas, et en fait il y avait quand même tout un système qui était toujours là, dispo, prêt à accueillir sa musique, en fait.
Ah ben, en fait, l'album qu'il a fait avant a pas du tout fonctionné. L'album qu'on a fait ensemble, il a vraiment fonctionné. On était le meilleur album de l'année pour les In Rock, pour le Parisien, et dans plein de pays. Ouais. Non, c'était assez dingue.
C'est vrai que c'est important de préciser ça. C'est-à-dire qu'il suffit pas d'aller fit effectivement avec Pete Doherty pour faire un album qui va marcher. C'est que effectivement, c'est que vous avez fait un bon album.
Ouais, quoi. C'était une belle collab. Ouais.
Écoute, nous, c'est un peu comme avec Daniel. Nous, ça nous plaisait, et puis d'un coup, ça.
Non, mais ce qui est marrant, c'est que du coup, en t'écoutant, on a la simplicité de votre relation. Avec vraiment, il t'offre du thé et tu joues de la guitare. Et à côté, le système en fait industriel de l'industrie musicale qui s'est mis en branle tout de suite derrière pour.
Oui, c'est vrai que le passage de l'un à l'autre, il est étonnant, en fait. D'une forme de simplicité à une machine.
Un truc
pour illustrer la simplicité. C'était avant l'émission, mais tu nous disais que en un moment t'avais lâché l'affaire sur les rendez-vous pour enregistrer ou pour écrire avec Pete Doherty. C'est juste, il venait quand il voulait, quoi. Et puis t'étais là, t'étais à côté, disponible. Puis vous faisiez de la musique quand il était lui dans les bonnes dispositions pour faire de la musique.
Ouais, c'est vrai.
Ah oui, parce qu'il est resté quand même relativement ingérable.
Ah non, mais en fait le truc qui est fou, qui peut sembler un peu étrange, c'est qu'il a pas de téléphone portable.
OK.
Et donc en fait je pense que c'est son entourage, sa femme, son manager qui c'est pour éviter qu'il fasse n'importe quoi, ouais. qu'il se disperse. Et donc, en fait, il est aussi dans un truc où... il pouvait venir à 9h du matin comme à, comme à 9h du soir.
Ouais, il faut être dispo quand même pour...
Ouais.
C'est-à-dire que si tu lui donnes un rendez-vous, tu lui dis rendez-vous à 10h et qu'il se pointe à 19h...
Je lui ai jamais donné de rendez-vous quand on compte composer l'album.
Donc c'était quoi, des journées d'astreinte en fait, c'est ça le truc?
Oui, mais en même temps, c'est ce que je te disais, j'aurais pas pu le faire à Paris, parce qu'à Paris on a des rendez-vous, il y a les enfants, il y a notre vie sociale. Là j'étais dans cette maison.
Ouais, donc dans un cadre.
Dans un cadre où j'étais dans cette maison juste pour ça.
Ouais, ok.
Et en fait, au début aussi, c'est parce que j'ai menti au début. J'avais quelques chansons au début. Mais après, j'avais plus rien, je composais sur place.
Ouais, ok.
Donc en fait, moi, ça m'allait très bien aussi. Et c'était aussi un rêve de... C'est-à-dire que quand j'étais gamin, quand t'as 18-20 ans, et que la musique est tout pour toi, t'es complètement dispo à ça. Quand tu vieillis, t'as sans arrêt des choses à faire, qui sont liées à la musique, mais qui sont liées aussi à ta famille,
oui,
qui
normal,
sont liées,
oui.
Voilà. Là, d'un coup, d'être dans cette maison magnifique, d'être
100% là-dessus,
100% là-dessus, de pas avoir d'amis qui passent, de pas avoir de rendez-vous.
Ça te renvoie à avant,
c'était vraiment un rêve que je voulais réaliser depuis 20 ou 30 ans de en fait, même là j'hésite, je veux le refaire et j'hésite à le faire, c'était de louer, tu vois, une baraque dans un endroit sympa et t'y vas seul et t'y vas que pour composer. Et souvent j'ai envie de le faire, mais en fait tu le fais jamais, parce que t'as toujours autre chose à faire, ou je sais pas, il y a peut-être...
J'imagine que ta famille, au normal, te dit, bon, Fred, c'est sympa, mais c'est partir cool, 6 mois.
Ouais. Non, mais en même temps, c'est même pas ça, c'est moi avec moi-même, je sais pas.
Mais ça veut dire que toi, parce qu'il y a des artistes aussi qui ont besoin de sortir, tu vois, qui arrivent pas à écrire chez eux, par exemple, ou ils ont besoin de sortir, de se mettre dans un autre mood.
Dans une cabane façon Bon Hiver.
Ouais, voilà. Ou sur un bateau comme Molécule, par exemple.
Ouais, incroyable, effectivement.
Toi, en fait, t'as aucun problème avec ça. Tu peux composer chez toi dans ton environnement habituel.
Je peux composer chez moi, mais c'est aussi pour ça qu'il y a cette maison sur la pochette. C'est que je pense qu'on n'aurait pas le même album si on l'avait pas fait dans ces conditions-là.
Ouais, ok.
Frédéric, avant qu'on termine avec tes albums solo, si tu devais tirer de certaine manière des enseignements de toutes ces années de collaboration avec des gens, il y en a encore certainement plein à venir. Bah, tu disais tu bosses actuellement avec Michel Houellebecq.
Je suis curieux quand même.
Est-ce que il avait fait déjà de la musique avec
Bertrand
Gala,
bien sûr. Ouais.
Est-ce que t'as dû t'entourer pour gérer toutes ces collaborations, pour gérer tes droits,
c'est une question que je voulais poser.
Ou est-ce que t'as un peu géré ça? On l'a vu avec Pony Pony Run Run, un peu bon, voilà, on se débrouille à ma manière. Ou est-ce que il y a un moment où il a fallu se dire, ok, là, ma carrière elle est telle que j'ai besoin d'avoir des gens autour de moi pour arriver à gérer tout ça.
J'ai beaucoup géré seul.
Selon, on a l'impression que vous vous tapez dans la main et puis let's go. Alors que bon, ça reste Pete Doherty quand même. J'imagine que lui, il doit avoir une armée de, de gens qui s'occupent de ses intérêts.
Ah ouais, c'est ça. C'est sûr que ça a été, l'album avec Peter, j'ai mis 3 mois pour le composer. Et puis, après, j'ai mis 7 mois pour me mettre d'accord avec le manager.
Ah oui, d'accord. OK. Ouais, donc il y a quand même, parce que ça, c'est vrai qu'on l'a pas du tout abordé, mais OK.
Ah ouais.
Il y a quand même des tractations d'arrière-cuisine sur...
Mais des trucs sans fin.
Ouais.
Et souvent, pour rien. Hein. Mais après, là, aujourd'hui, j'ai des agents. Mais quand j'étais avec Peter, par exemple, j'avais je me faisais les zooms avec l'avocat, avec le manager, j'étais tout seul. Mmh. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir une équipe, mais après, tu passes ton temps à la nourrir aussi, quoi. Mmh. Tu vois, et donc après, est-ce que ça t'amène de la liberté ou
non,
pas?
Non, t'es moins libre parce que tu dis à des gens qui dépendent de ce que tu fais. Ouais.
Et je sais pas. Après, peut-être que lui, il était dans un range plus grand, tu vois. Moi, en France.
Mais t'as embrassé l'idée que ça faisait partie de ton métier d'aussi aller devoir dealer avec l'avocat, avec le manager, machin, etc.
Ouais,
ça fait partie du métier de musicien pour toi.
Ah ouais, mais je pense même que j'aime ça. Ouais. Pour moi, c'est aussi le prix de ma liberté. Mmh. Et puis j'aime bien. Je pense que album avec Peter, par exemple, je suis compositeur, je suis musicien, mais je suis coproducteur aussi. Et les concerts, j'étais coproducteur de spectacles. Et en fait, si tu délègues tout,
ouais, ça réduit un peu ton.
Tu fais plus rien, quoi. Ouais. Enfin, tu gagnes rien. Alors, c'est même pas. Je m'occupe de tout. C'est même pas par.
Par calcul financier.
Ouais, par calcul financier.
Hormis le fait de se dire, au moins, il y a personne qui dépend de moi, donc je suis libre. En fait, c'est une question de liberté.
C'est plus par liberté, ouais. Et par liberté de choix et par liberté de décision. Y a plein de moments où j'aurais aimé, par exemple, avoir un assistant. J'ai essayé parfois, mais c'est pas simple non plus parce que.
Il faut accepter que la personne rentre aussi dans ta vie.
C'est ça, tu vois. Et puis, il y a des moments, quand je crée, j'aime bien être seul. Après, ça veut dire qu'il faut trouver quelqu'un qui, à la fois, comprenne, qui soit un assistant, aller chercher, ou faire réparer un synthétiseur quand il est en panne, ou faire des edits, tu vois. Moi, j'adorais avoir... Quand je bosse sur un truc, tu vois, je fais même mes edits. Tu vois, je fais même pas d'ingé son quand je travaille. Sauf si, sur l'album avec Peter, quand il y a 3 jours où j'ai un ingé son, qui est mon mixeur, quand on enregistre les cordes et la batterie, pour que je sois plus focus et parce que, il le fait bien mieux que moi. Mais sinon, sinon tout le reste du temps, les guitares, je les m'enregistre, je les édite, etc. Et c'est vrai qu'il y a plein de moments, ce serait bien si j'avais un assistant. Mais même dans le chemin de traverse que j'ai toujours pris, je sais même pas si j'aurais pu pouvoir salarier quelqu'un à temps plein.
Même là, aujourd'hui, que tu te dis.
Ah ouais, même aujourd'hui.
Ok.
Ouais, c'est toujours, c'est vraiment toujours l'aventure hein, quand même.
Si t'avais signé le truc pour Pony Pony Run Run,
et you, il aurait tout changé. Il aurait pu prendre 10 assistants.
10 assistants. Allez.
Alors tes albums solo, parce que on a expliqué qu'il y avait cette partie dans les années 90 où ça avait sorti des trucs en solo.
Ouais.
Et puis ensuite, en fait, t'es revenu après toutes ces collaborations avec Alléluia d'abord, en solo en 2019. Et puis là, il y a quelques mois, Outre Bleu. Alors c'est intéressant parce que tu vas nous dire ensuite pourquoi t'es revenu à ces aventures solo. J'imagine que c'est un espace de liberté encore différent, un espace de travail encore différent, d'expression différent. Mais il y a un truc marquant, c'est que pour pouvoir parler un peu des deux albums en même temps, c'est Alléluia était marqué par beaucoup de collaborations justement, beaucoup de featuring, de s'y retrouver. Stéphane Escher, Alex Baupin, Robert Wyatt de Soft Machine, c'est plutôt stylé. Puis il y avait des textes de Benjamin Biolay, de Daniel Darc, un aussi que t'avais emprunté à René Char.
C'est vrai.
Et alors que sur L'Autre Bleu, on est parti sur un truc beaucoup plus alors je sais pas si c'est plus introspectif, en tout cas plus personnel, plus individuel aussi, plus c'est toi. Avec la musique, quoi.
Alors déjà, il s'est passé quand même... Enfin, parfois, c'est ça aussi, la vie. Entre mon deuxième album solo, là, Les Anges de Verre, et Alléluia, il se passe 18 ans sans que je fasse un album solo. Alors, en même temps, c'est ce que je vous ai dit. Pour moi, les albums avec Darc, c'était des albums de collaboration. Donc, c'était ni des albums solo... ni des albums dans lesquels je me retrouvais pas. Au tout début, donc moi j'aimais le collectif, j'aimais être en groupe, J'aimais pas spécialement au début être en artiste solo, genre tu fais quoi, je suis chanteur. J'aimais pas tellement, c'était pas tellement le, ouais. mon propos. Malgré tout, dans ces 18 années, j'écris toujours des chansons. Alors parfois j'en place pour des interprètes. Et puis il y a des morceaux, c'est tellement quand même personnel que j'ai pas envie de les laisser
donner. En fait,
oui, voilà. Et un jour, j'ai un peu un flash, un peu en m'endormant. Vous savez, quand vous commencez à faire un... Vous savez pas si c'est le début d'un rêve ou si c'est votre esprit qui est encore conscient, mais qui commence à divaguer. Ouais, voilà, quand on s'assoupit. Et là, je me vois en train de mourir. Et me dire, mais en fait, t'avais toutes ces chansons,
t'as toujours fait
de la musique. Au début, tu t'étais dans un groupe, donc tu as toujours chanté tes chansons. C'est pour t'exprimer que tu as fait de la musique. Et après, t'as cette expression que tu avais, tu l'as donnée qu'aux autres. J'ai dit, mais alors qu'en fait, tu pourrais très bien continuer à la donner aux autres et puis aller au bout de ce que...
La démarche, ouais.
De cette démarche. Mmh. Et sincèrement, tu as envie de mourir et t'en réaliser le jour de ta mort que tu es con, en fait, de ne pas l'avoir fait.
Mmh. Et c'est un peu ça, l'outre bleu, ça provient de
non,
ça.
Non, Alléluia, c'est ça.
Ah, c'est Alléluia, ok.
Mais dans cette transition, au début, je me suis demandé si j'allais pas faire un album instrumental, parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, je passais pas mal de temps à... J'écrivais les textes, à écrire de la poésie, et en fait, en réalisant et en produisant autant de disques, j'ai plus eu le temps d'écrire ou cette sorte de rêverie. Et puis la famille, les factures à payer, je trouvais que j'arrivais plus facilement à composer ou à ranger sur commande que d'écrire pour moi comme je le faisais quand j'avais 15 ans. Et donc, c'est d'un album instrumental, d'un coup, c'est transformé en un album de chansons, en piochant un peu des textes sur mes collaborations qui étaient les gens avec qui je travaillais à ce moment-là. Et en fait, à la fois j'étais hyper content de faire cet album, donc c'est aussi pour ça que c'est un peu une joke, un peu Alléluia aux 18 ans. Et en même temps, il y a le côté un peu biblique de Cohen, d'une vie pour la musique, une sorte de puissance un peu spirituelle de la musique. Et à la fois, j'avais les foies de me faire descendre, parce qu'en fait, d'un
là,
coup,
tu
t'exposes quand même. Et puis en fait, c'était aussi, je me suis rendu compte que c'était aussi le début de Spotify, de pouvoir ne aucunement dépendre d'une maison de disques pour pouvoir sortir un disque et le distribuer. Et c'était vraiment un super accueil presse. Et donc, peut-être qu'en faisant Alléluia, c'est comme ça que j'ai fait l'album avec Bill Pritchard. Et c'est sûrement dans cette dynamique que j'ai fait l'album avec Peter. C'est-à-dire que je sais pas si on aurait eu le même rapport si j'étais pas revenu à redevenir artiste frontman et plus juste producteur dans une chaise en cuir. Et en revenant, j'ai fait beaucoup de concerts comme ça en solo. Il y a eu un film qui est sorti sur Daniel Darc, dans lequel j'avais des droits de musique que j'avais composé. Et puis, comme c'était une petite boîte de prod, ils n'avaient pas d'argent. J'ai dit, écoutez, moi, vous parlez de mon ami mort, il y a ma musique, je vous cède les droits. Et ah bon, mais ça te dirait de faire des avant-premières? Je dis mais carrément. Et puis même, je pourrais faire des avant-premières. Et puis si vous voulez, et puis je joue. Et donc j'ai fait comme ça une tournée de 15-20 dates comme ça. Et en tournant avec Peter, comme on n'avait qu'un album ensemble, lui, parfois il voulait jouer des chansons à lui, parfois il voulait plus. Au bout de 50 minutes, il voulait arrêter. Et il y avait le régisseur qui me disait, non mais là, on a vendu 1h20, là, il faut jouer, il faut jouer. Je dis, ok, tu veux que je joue alors? Donc, un jour, je me dis, mais en fait...
J'ai du matériel.
Ouais, voilà. Et je lui dis, moi, je peux jouer. Hein. Ok, vas-y. Et puis, donc, d'un coup, je reviens sur scène. Les gens pensaient qu'on avait arrêté de jouer. Je lui dis, écoutez, je suis pas sûr que Peter revienne sur scène, mais moi, je peux vous jouer des chansons. Moi, je peux vous jouer des chansons si vous voulez. Alors, les gens, comme ça. Et puis, ouais. et comme ça, je jouais 3, 4, 5 chansons. Puis Peter, d'un coup, il me voyait. Et puis, ça le piquait, donc lui revenait seul. Il revenait seul, donc je le laissais seul. Et puis d'un coup, hop, on terminait à deux. Et donc les gens avaient l'impression que c'était
partie, en fait,
les gens avaient l'impression que c'était un show qu'on avait monté alors que c'était complètement improvisé. Et ah en fait, de ça, ça m'a vraiment donné à nouveau une liberté. Avec le Covid aussi, je m'étais mis à réécrire. Et puis, en étant vraiment hop, comme ça, avec cette histoire de Peter, je passe une année où je perds ma mère et trois mois après ma sœur. Mmh. Et donc, d'un coup, en fait, c'est l'Outre Bleu, c'est-à-dire que c'est un album à la fois d'amour lié sur les gens que j'ai aimés qui sont morts. Donc, c'est Daniel, mon ami Marc-Antoine, producteur d'Amadou et Myriam, ma mère, ma sœur. Et c'est aussi un truc à la fois un peu deep, mais en même temps lumineux sur un message d'amour sur les gens qui étaient là. Et c'est ça.
Ce que je te propose, c'est parce que c'est le morceau qui ouvre l'album L'Outre Bleu, Ne plus penser à vous. Voilà. Je pense que c'est assez clair de quoi ça parle. On peut écouter ça.
Cher ami perdu, d'amour éperdu, je placerai ton nom au cœur d'une chanson, une vie en vain, à courir pour rien. J'ai un mal fou à ne plus penser à vous. J'ai beau m'efforcer de ne plus y songer, aller dans les allées, le cœur léger, désert sans fin, me rattrape soudain. J'ai un mal fou à ne plus penser à vous. Rien de nouveau sous le soleil glacé, haillons au ripos, et corps figé, tout est dit déjà.
Il est très joli cet album. Et puis tu t'entends plus des trucs, parce que des morceaux instrumentaux même. Mmh. Je pense à Pigalle en décembre, oui, par exemple. Et puis il y a une évolution, tu sais, au fur et à mesure du morceau de l'album. On a vraiment ton truc un peu où ta voix est beaucoup mise en avant, la guitare est assez présente, etc. Et puis petit à petit, ça s'ouvre vachement au piano, au fur et à mesure, aux arrangements aussi un peu plus amples, avec des cordes, etc. Il y a vraiment, je trouve, cette évolution esthétique au fil de l'album. Je ne sais pas si c'est une volonté. Ouais, c'est
joli. Ouais, ouais. Enfin, j'essaye que ce soit la même chose et que ce soit différent. Après, il y a des collaborations aussi, mais c'est moins des feats comme Alléluia. Il y a Peter sur You Look Fresh Now. Il y a Robin Guthrie des Cocteau Twins sur Notre Vieux Voyage. J'avais écrit des scores de vibraphone et de marimba, oui, et puis des
questions modales.
Voilà.
Ouais, c'est hyper bien,
ou sur S. Madeleine. Et en fait, c'est Clément Ducol qui ensuite a eu un Oscar pour Emilia Perez. On l'a enregistré juste à côté, là, au studio de Jean-Benoît Dunkel, Atlas, studio Atlas, l'ancien studio de R. Voilà, c'est aussi des rencontres. Par exemple, Pendant longtemps, j'ai fait des masterings à Londres, à Metropolis, et puis les gars avec qui je travaillais, notamment un qui s'appelle Tim Young, qui avait fait des Pretenders à Massive Attack, en passant par les Clash, en passant par un truc de dingue. Puis lui, il a pris sa retraite, et puis il y avait des mecs plus jeunes, et puis je sais pas, je trouvais ça me parlait moins. Puis on a cherché un gars qui pouvait masteriser cet album. Et puis en demandant à droite à gauche, on a fait un essai avec un gars, et puis d'un coup c'était génial. C'est un gars qui s'appelle Mike Bouzy, il fait genre Kendrick Lamar. Et d'un coup c'était bien ce qu'il faisait. C'est-à-dire que c'est à la fois, pour moi, quand on revient à Crève-Cœur sur le hip-hop, là par exemple c'est pas...
On sent moins ces influences-là.
C'est pas c'est pas du hip-hop, mais ce que j'aime, c'est que il y a par exemple, à la fois c'est de la chanson, mais à la fois c'est quand même, il y a du bas comme t'as pas, il y a
un pas côté, mal de boîtes à rythme aussi.
Il y a un côté épuré. Ouais, il y a un truc. Par exemple, moi j'ai toujours adoré, j'adore le dernier album de Kendrick Lamar. Un truc à la fois hyper épuré, puis en même temps, acoustiquement beau, quoi.
Est-ce que, peut-être pour terminer, un autre morceau quand même de L'Outre Bleu, je disais, pour le résumer un peu, alors L'Outre Bleu d'ailleurs qui est une référence à Soulages, à Pierre Soulages, le peintre qui utilisait l'outre noir. Mmh. C'est marrant d'ailleurs, en faisant un peu des recherches sur ça, j'ai vu qu'il y a un artiste comme Gesaffelstein, je sais pas si ça te parle, un artiste de musique électronique, aimait beaucoup Soulages, enfin tu sais, des références à Soulages, il y a même une interview croisée qu'on peut trouver entre les deux. Et il y a ce truc un peu que je pense qu'il te représente, c'est qu'il y a à la fois de la, il y a à la fois de l'intime, à la fois de la, une approche un peu littéraire, enfin on sent que ça te nourrit aussi. Et puis une certaine élégance quoi qui ressort globalement de cet album.
Ok.
ça te va, ça te convient?
Ça va.
Est-ce qu'il y a un morceau que toi que t'aimerais écouter sur l'album, faire découvrir aux gens?
Non, je sais pas, vas-y. Ouais.
Je sais pas, moi j'ai mis de côté S. Madeleine, j'ai mis Gradius ad Parnassum de côté, Pigalle en décembre qui
ouais, S. Madeleine si tu veux.
Ouais, allez. Changement en plus.
C'est bien comment ça. Ouais,
bah c'est pour ça que j'ai laissé un peu assez longtemps là cet extrait, parce qu'il y a le moment instrumental quand même qui est intéressant.
Mais la chanteuse n'est pas créditée par contre sur le.
C'est vrai qu'elle est. Elle double ta voix derrière.
Elle est créditée dans les chœurs, ouais. Okay. Mais pas
sur le.
En racine, ouais.
Bon, je précise pour terminer, on va pas rentrer dans le détail là-dessus, parce qu'on a déjà un peu parlé du fait que tu aimais bien faire les choses toi-même, et en fait, tu avais monté ton label, Water Music, sur lequel tu sors cet album. Alléluia aussi, t'étais sorti sur Water Music.
Ah oui, bien sûr, j'ai même Crève-Cœur.
Ah ouais, Crève-Cœur. Ah, ouais, bien sûr. Pas, ça.
Mais même l'album avec Peter, on est.
Écoute, ça aurait pu être encore une discussion. On arrive à 2 heures d'émission.
C'est pas mal.
Il va falloir qu'on s'arrête là. C'est déjà pas mal. On a bien parlé. On a, tu sais, juste une tradition. On va essayer de le faire très rapidement. Ouais. C'est terminé avec des recommandations. Ouais. Fois, c'est plus ta musique, des trucs juste que t'aimes bien, soit que t'as découvert récemment, ou un de tes classiques que t'as envie de faire découvrir à nos auditeurs, à nos spectateurs. On peut commencer avec Daz, si tu veux. On s'écoute un extrait très bref de chacun un petit morceau. Daz, est-ce que t'as un truc de côté, toi?
Oui. Un morceau qui s'appelle When I Come Around de Dom Kennedy.
Okay. Moi je connais la version Green Day, When I Come Around.
Ouais, bah ouais, justement quand je tape When I Come Around, c'est Green Day, non, pas du tout. Dom Kennedy, donc artiste de Los Angeles. Okay. Un morceau très. Donc c'est un truc qui date de 2015, je crois.
Comment t'écris Dom Kennedy ?
Dom comme D-O-M et ouais. Kennedy comme celui qui est.
Ah, je l'ai trouvé, voilà. Ok, super.
Et un morceau très californien, dans okay. la vibe, dans. Rap californien, je précise, mais. La nonchalance et tout, c'est très cool.
Donc c'est Dascore.
Oh, complètement.
Allez, on s'écoute
mais
ça.
Mais pas comme d'habitude.
C'est ah, c'est différent. Ok, ok. On va voir. Yeah. Yeah. Let me take you on a day. Day. We ain't got a way. Tell me if you got an ex nigga in the way, he can stay. I just wanna get a little taste and I see you keep your body in shape. Look, I just wanna day. Day. Damn, you look good, huh? Damn, you look good, girl, and you look good. Need to stop. Niggas came in 2 shots. I'm waiting to hear sugar free quicker. 2 pots, this the coast. T-shirt, plan on no coats. A party ain't a party if my nigga can't smoke. Here we go. Let me make a toast to baby over there, cause you know I wanna poke. No, I don't. I just wanna stick it in the throat. Hey. Drop out the house and go dipping on those folks. Hey. Niggas know. 2 12s in the backseat. Passing by the kids and they yelling, that's me as I skate. Okay. Damn, what's with all this hate? Hey. When I come away, can't say it to my face. Okay. Niggas know I do stay paid, and niggas can't get that fade when I come around. Niggas better quiet shit down. Yeah. You niggas ain't buying Chris Staff, you sharing that drink. When I come around,
when I come around. Avec les petits synthés là derrière et tout, très, très bonne vibe pour écouter
c'est
ça.
C'est frais, autour de la piscine.
Ouais, c'est ça. Là, c'est des ailes de poulet avec du Dom Pérignon, tu vois. C'est vraiment le mélange de monde.
Frédéric, est-ce que toi, t'as une idée de mon morceau que t'aimerais faire découvrir?
Écoute, moi, il y a le dernier Kendrick Lamar, hein, que okay. j'adore.
Let's go!
Si vous voulez.
Bah ouais, un morceau précis sur l'album?
Ouais.
C'est
alors,
lequel?
Ça va être Man at the Garden.
Eh ben, on s'écoute ça tout de suite, Man at the Garden, Kendrick Lamar. And less enemies, stock investments, more entities. I deserve it all. PVS is white diamonds, GNX with the seat back reclining, bitch. I deserve it all. Put my homes on a beachfront, flying private. What you eat for lunch? I deserve it all. The respect and the accolades, lamping on the island, watching Castaway. I deserve it all. For every good nigga that passed away, sent 2.5 million on the average day. I deserve it all. Keep my name by the world leaders. Keep my crowds loud inside a beast. I deserve it all. More money, more power, more freedom. Everything heaven allowed us, bitch. I deserve it all. I deserve it all. Alors j'avoue, j'ai même pas écouté cet album.
Ouais, j'ai pas écouté GNX. Ouais.
Toi non plus, tu l'as pas écouté?
Non, pas trop.
Il est énorme.
Ah ouais,
énorme.
Ah ouais. Ah,
en fait, je suis resté sur Not Like Us et tout, et je comprends la puissance du truc, mais c'est vrai que du coup, ça m'a pas attiré pour écouter le reste, alors qu'en fait, il y a des trucs qui
m'arrivent. Parce que c'est hyper dépouillé dans la production Not Like Us. Enfin,
bah là aussi, en fait, c'est ça qui est intéressant.
Oui, moi, je suis pas ultra fan de l'approche, j'avoue, de notre Like Us. Mais,
DJ Mustard.
Mais ouais, mais après, c'est un truc.
J'étais aussi sur le Dom Kennedy, d'ailleurs, tu vois. Comme quoi, il y a des liens, il y a des liens.
Mais il faut qu'on se penche sur l'album, effectivement. Ouais. En plus, si Frédéric le recommande.
Ouais, mais en plus, on sent un peu la vibe de ce morceau par rapport
pourquoi
à ce
ça lui plaît, ouais, grave.
Ouais, je
suis d'accord.
Je comprends complètement pourquoi
ouais,
ça marche.
Un peu nappe et tout.
Ouais.
Ok, bah je termine. Alors. Ouais, alors c'est un truc, c'est une recommandation. Enfin, c'est en naviguant d'artiste en artiste, j'écoutais des trucs un peu house, plutôt pas très connus, un peu tu vois de mecs d'internet qui font de la house et tout des trucs comme ça sur Spotify. Et je suis tombé sur un truc, un mec s'appelle Shy Boy 2K. Okay. Absolument pas connu, ça fait très peu de stream.
Est-ce qu'il existe vraiment ou c'est un artiste monté de toutes
pièces? Aucune idée.
Okay. Spotify justement.
Dans tous les cas, il faut que je sois honnête et c'est l'un des trucs que j'ai écouté le plus ces derniers temps. Je sais pas pourquoi, je l'écoute à fond, ça me met dans une bonne vibe. C'est pas hyper bien produit, ça sonne pas ample et tout, mais je sais pas, il y a un truc addictif. Bref, je mets ça. Le morceau s'appelle Bunny. Quoi. Ce kick hyper sourd et tout, mais je sais pas pourquoi, moi ça marche.
Ça t'a attrapé.
Ça me fait partir. Fred, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission.
Ouais, merci, c'était très cool.
M'avoir invité.
C'était un vrai plaisir.
C'était super cool.
Daz, merci.
Ouais, merci Salman, merci la bouclette.
Ouais, évidemment, la bouclette, Sam, Iris, Flav.
Ouais, merci. Alors Iris, elle a pop en.
Oui, elle est arrivée, effectivement. Merci aussi à Thomas, évidemment, d'aider à faire cette émission. On se retrouve, nous, dans 15 jours. Ce sera un nouveau sujet, un nouvel invité. Ce sera forcément bien. Ciao.